tenu une conférence pour expliquer un peu à mes étudiants ce qui se passait. Puis je vois que le nombre des étudiants s'est subitement accru. Bon, ce n'est pas, je ne suis pas du tout hostile à cela, bien sûr. Je pense que tous nous avons besoin d'y voir clair un petit peu dans ce qui nous arrive, si je puis dire. Oui. D'autant plus que si vous avez la mauvaise habitude de lire certaines presses ne peut que vous troubler. Bien sûr, là, si vous lisez le Figaro tous les matins, comme je le fais moi-même, hélas, on peut effectivement se poser des questions. Hein, bon, alors c'est pourquoi je crois qu'il faut essayer de calmer un peu les choses pour regarder les faits dans leur objectivité. Alors il se trouve que nous autres, malgré tout, par notre situation, nous avons quelques documents, quelques lettres, quelques informations que la presse a peut-être, mais qu'elle ne divulgue pas nécessairement, bien sûr. Alors je souhaite simplement bien essayer de vous aider à y voir clair dans cette affaire. Alors je souhaiterais, si c'est possible, comme vous le voyez, il y a ici un micro, que vous évitiez de faire trop de bruit, puisque je souhaite donner un peu de publicité ensuite à cette conférence, si du moins elle tient debout, en diffusant l'enregistrement de cette cassette pour les gens bien qui sont ailleurs qu'ici, donc la diffuser par tous les moyens possibles. Donc s'il est possible de faire un enregistrement à peu près correct, ce serait bien. Alors je mettrai volontiers en exergue de cette conférence cette citation du père Clérissac que nos étudiants connaissent. L'on a dit qu'il faut savoir souffrir non seulement pour l'Église, mais par l'Église. S'il y a quelque vérité dans cette parole, c'est que nous avons parfois besoin d'être traités fortement, d'être tenus dans l'ombre, le silence et toutes les apparences de la disgrâce, et peut-être pour n'avoir pas assez saintement profité des faveurs et des avances de l'Église en d'autres temps. Puis, n'en doutons pas, ce traitement fort, nous faisant efficacement concourir à l'ordre et à la sainteté de l'Église, nous sera l'équivalent surnaturel d'une mission. En tout cas, le signe certain que nous gardons la plénitude de l'Esprit et de ne jamais admettre que nous puissions souffrir par l'Église autrement que nous pouvons souffrir par Dieu. Là, une très très belle pensée du père Clérissac dans le mystère de l'Église. Je ne sais pas s'il était prophète, mais enfin, je crois que cette citation s'applique tout à fait à la situation que nous vivons aujourd'hui. Je mettrai également volontiers en deuxième exergue, si cela se peut, une autre citation du révérend père Calmel. Je serai trop long de tout citer, mais enfin, je citerai simplement une phrase assez incisive, peut-être un peu brutale, mais qui exprime une vérité. C'est dans sa brève apologie pour l'Église de toujours. Il nous dit là, cette vérité délicieuse, très forte, « L'Église n'est pas le corps mystique du pape. L'Église n'est pas le corps mystique du pape. Il est un dogme de foi, c'est que l'Église est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas identifier donc strictement le pape et notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le vicaire. C'est immense comme rôle et comme fonction, bien sûr. Mais le vicaire n'est pas celui dont il tient la place. Bien. Alors, ceci dit, eh bien, rentrons un peu dans le vif du sujet. Si j'avais eu le temps de mieux préparer cette conférence, j'aurais volontiers fait un petit peu comme fait saint Thomas d'Aquin. Tout d'abord des objections, ensuite un sept contrat, l'argument d'autorité. J'avoue, quand la situation c'est un peu difficile, l'argument d'autorité. Puis ensuite, eh bien, le respondeo, le corpus, on développe une argumentation, puis ensuite on réfute les objections. C'est une bonne méthode, ça, qui a fait ses preuves, en tout cas. Alors les objections, eh bien, je crois que ce sont celles que nous lisons, celle que nous entendons peut-être, ou celle que vous vous faites, ou que nous nous faisons nous-mêmes. La première objection, c'est vrai, et ça je crois que tous nous pouvons nous la faire, mais pourquoi Monseigneur a-t-il signé ce protocole du 5 mai pour le dénoncer quelques jours après? J'y répondrai tout à l'heure, hein, n'ayez pas peur. J'énonce pour l'instant les objections. Ensuite, deuxième objection, bien c'est celle que vous voyez dans tous les journaux, bien sûr, c'est le schisme. Ce sera un schisme. Bon. Troisième objection, eh bien c'est ce fameux canon 1382 dans le nouveau droit canon qui prévoit l'excommunication latae sententiae pour un évêque qui sacre un autre évêque sans mandat du souverain pontife. Bien. Une autre objection, ça doit faire la quatrième, je crois, eh bien, c'est l'abandon à la providence. On nous dit, mais enfin, vous lisez la lettre aux catholiques perplexes. Monseigneur dit que, eh bien, s'il mourait, Dieu pourvoirait au bien de son œuvre, etc., et que donc il n'y a pas de souci à se faire, etc. Nous y répondrons également. Autres objections, bien sûr, l'obéissance. Celle-là, nous la connaissons depuis longtemps. Puis enfin, une autre, peut-être, celle de la confiance. Vous n'avez pas confiance, alors, quand même, c'est grave de ne pas avoir confiance en Rome. Oui, toute une série, peut-être, y en a-t-il d'autres, hein, ça, je ne sais pas, mais enfin, je crois que là, nous avons les principales, en tout cas, des objections que nous entendons. Alors, je pense que le plus simple pour essayer d'y voir clair un peu, c'est de refaire peut-être un rappel historique, hein, de toute cette histoire. Rappel historique, bien sûr, je ne reviendrai pas sur le concile qui a clos ses portes en 1965 et pendant lequel, eh bien, Mgr Lefebvre et d'autres évêques, je crois qu'ils étaient 250 même à peu près, à présenter des objections à certains textes pendant ce concile. Donc un combat quand même qui a été mené pendant le concile, et puis qui ensuite a continué à être mené, et malheureusement, eh bien, semble-t-il, par seulement deux évêques, de façon publique, en tout cas, Mgr Lefebvre et Mgr de Castromayeur. Autrement dit, les 248 autres, là, eh bien, c'était fini, ou à peu près. Donc, il faut remonter à peu près à la fin du concile, et depuis donc 1965... à peu près, eh bien, Mgr Lefebvre, pour parler de lui simplement, cela fait donc 23 années maintenant, donc présente à Rome, donc, des objections, des choses que nous ne comprenons pas très bien, tel texte qui nous paraît difficilement conciliable avec la tradition, etc., etc. Bon, 23 ans. Eh bien, il a fallu attendre quand même à peu près 22 années, qui en 1987, je crois, eh bien, pour que Rome, enfin, commence à considérer sérieusement les objections faites par Mgr Lefebvre et à élaborer un début de réponse, 22 années. Où il me semble que pendant ces 22 années, Rome, si vraiment Rome avait voulu une réconciliation, un accord, Rome avait le temps, effectivement, de percer l'abcès et d'empêcher, eh bien, que la situation ne vienne à s'envenimer. 1900, je pourrais dire encore peut-être quelques petites choses, non, enfin, 1970, donc fondation de la Fraternité Saint-Pédis, reconnue par Mgr Charrière et approuvée par Rome. Parfait, tout va bien. Et puis voici qu'en 1972, je crois, novembre 1972, si mes souvenirs sont exacts, réunion de la Conférence épiscopale des évêques de France, bien sûr, nous allons les trouver, en tête du combat, qui lance cette accusation qui est tout simplement une calomnie de séminaire sauvage. Mgr Marcus, 1972, Écône, séminaire sauvage. Alors moi je trouve ça un peu énorme quand même. Voici un séminaire approuvé par l'évêque diocésain, approuvé par Rome, qui se trouve qualifié et de façon, tout à fait impunément, qualifié donc par un évêque de séminaire sauvage. Mais j'avoue qu'à l'époque, peut-être aurions-nous aimé que Rome lance quelques munitions, quelques avertissements d'avoir à se rétracter à Mgr Marcus. Bien sûr, cela n'a pas été fait, et donc, eh bien, c'est pratiquement ça a été le point de départ de cette campagne de calomnie, car il y a eu de véritables calomnies, je crois que tous nous en souvenons, hélas, ces calomnies contre Écône, la fraternité, Mgr Lefebvre, ses prêtres et tout ce que l'on peut imaginer. Bon, alors ensuite, il y a eu tout le reste, je ne reviens pas sur l'histoire de la fraternité, les sanctions prises, les ordinations de 76, la suspense à Divinis, l'entrevue avec Paul VI, etc. Bon, tout un tas toute une période, bien pendant laquelle, finalement, c'était la guerre pratiquement ouverte, pendant laquelle nous nous sommes fait traiter de tous les noms, à peu près, je crois, schismatiques, nous le sommes depuis fort longtemps, semble-t-il, si l'on en croit du moins la presse, schismatique, hérétique, voire excommunié, pourquoi pas. Ça, certaines ne se sont pas gênées pour le prétendre. J'avoue que, de façon tout à fait malicieuse, sans méchanceté, lorsque je lis les communiqués des conférences épiscopales de France, de Suisse, ou d'Allemagne de l'Ouest, ou lorsque je lis certaines prières d'un cardinal parisien, qui invitent, qui prient, qui jeûnent, qui font pénitence et je ne sais quoi pour que Mgr Lefebvre ne commette pas l'irréparable. J'ai spontanément, je dirais, un qualificatif qui me monte à l'esprit. Je ne le dis pas, mais l'autre jour, j'ai fait une conférence à Versailles et puis quelqu'un qui était là a dit « hypocrite ». Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la personne qui était dans l'assistance qui l'a dit. Quand ils viennent maintenant pleurnicher en disant « Non, non, ne partez pas, restez avec nous », alors que ça fait 25 ans qu'ils nous mettent à la porte, j'avoue que j'ai du mal à comprendre et à croire peut-être même, ça n'est peut-être pas bien, à la sincérité eh bien, de leur désir que Monseigneur eh bien, ne commette pas ce qu'ils appellent l'irréparable. Je ne vois pas pourquoi l'action de Monseigneur serait irréparable. Qu'est-ce qu'il y a d'irréparable dans le fait de sacrer des évêques ? Pas. Enfin, bon, peu importe. Bon, enfin, tout ceci pour nous remettre un peu dans le climat, l'ambiance, un petit peu de ce qu'ont été toutes ces années, ces 20 et quelques années. Alors, bien sûr, vous connaissez sans doute comment ceci s'est accéléré, Mgr présentant bon, l'affaire d'Assise, bien sûr, en octobre 87, je crois, 6, je ne sais plus, excusez-moi, mais on est un peu perdu dans tout ça. Bon, l'affaire d'Assise, ensuite la présentation de ce qu'on appelle les doubias, les doutes, les inquiétudes, les choses que nous ne comprenions pas bien, et puis une réponse de Rome quand même qui n'est pas extraordinaire, effectivement, ont donc incité Mgr Lefebvre, d'autant que, apparemment, dans l'Église, rien ne donnait de signe, il n'y a pas de signe positif d'un retour à on ne sait trop quoi. Avancez, n'ayez pas peur. C'est donc ceci qui a amené Monseigneur à faire son sermon, j'allais dire tonitruant, si j'osais employer un adjectif pareil, du 29 juin 1987, cette fois, voilà. Et dans lequel, eh bien, il annonce la possibilité pour lui de se donner des auxiliaires. Alors, bien sûr, ça a été un peu comme un coup de tonnerre. Et Rome s'est émue, quand même. Le 8 juillet, Monseigneur écrivait, alors l'entrevue du 14 juillet avec le cardinal Ratzinger était déjà prévue, mais enfin, puisqu'il y a eu ce sermon du 29 juin, il y avait peut-être motif à repréparer un petit peu cette entrevue de façon plus précise, c'est pourquoi Monseigneur écrivait donc le 8 juillet au cardinal Ratzinger une lettre dans laquelle il lui disait entre autres que les conséquences pratiques de la thèse libérale adoptée par le Saint-Siège à la suite du Concile sont désastreuses et anti-chrétiennes. C'est le découronnement de notre Seigneur Jésus-Christ avec la réduction au droit commun de toutes les religions aboutissant à un œcuménisme apostat comme celui d'Assise. Afin d'enrayer l'autodémolition de l'Église, nous supplions le Saint-Père par votre intermédiaire de procurer le libre exercice de la tradition en procurant à la tradition les moyens de vivre et de se développer pour le salut de l'Église catholique et le salut des âmes, que soient reconnues les œuvres de la tradition, en particulier les séminaires, et que son Excellence Mgr Castromeyer et moi-même puissions nous donner les auxiliaires de notre choix pour garder à l'Église les grâces de la tradition, seule source de rénovation de l'Église. Éminence, après bientôt 20 années de demandes instantes pour que soit encouragée et bénie l'expérience de la tradition, demande toujours restée sans réponse. C'est sans doute l'ultime appel et devant Dieu et devant l'histoire de l'Église. Le Saint-Père et vous-même porteriez la responsabilité d'une rupture définitive avec le passé de l'Église et avec son magistère. Bon. Cette lettre, donc, du 8 juillet, à laquelle, donc, faisait suite cette entrevue du 14 juillet, qui s'était passée, semble-t-il, dans des conditions tout à fait bonnes, courtoises, et c'est là qu'avait été entrevue déjà la possibilité de l'octroi d'un visiteur apostolique. Et le cardinal Ratzinger répondait le 28 juillet à cette lettre et à cette entrevue, une lettre dans laquelle, effectivement, eh bien, il proposait, il disait des choses très belles, dont j'espère qu'elles exprimaient la vérité. Votre grand désir de sauvegarder la tradition en lui procurant les moyens de vivre et de se développer témoigne de votre attachement à la foi de toujours. Mais il ne peut se réaliser que dans la communion au vicaire du Christ à qui sont confiés le dépôt de cette foi et le gouvernement de l'Église. Le Saint-Père comprend votre souci et le partage. C'est pourquoi, en son nom, je vous transmets une nouvelle proposition, etc. Et c'était donc la proposition de, entre autres, bien sûr, de l'envoi d'un cardinal visiteur, mais qui était muni, en quelque sorte, de plein pouvoir. Pour notamment contrôler un petit peu la formation des séminaristes, et le cardinal visiteur se portera garant de l'orthodoxie de l'enseignement dans vos séminaires, etc. Et c'était le cardinal visiteur qui déciderait de l'admission des séminaristes au sacerdoce. Alors, Monseigneur a dit ça, pas question. Enfin, à quoi servent les supérieurs de la fraternité si c'est le cardinal visiteur qui, finalement, va décider qui sera ordonné, qui ne sera pas ordonné. Donc, nous étions là au 28 juillet. L'été passe et vous savez que Monseigneur avait prévu le 3 octobre une grande cérémonie pour ses 40 ans d'épiscopat. Alors sans doute le Saint-Siège un peu craintif, se disant attention, qu'est-ce qui va encore se passer, eh bien a fait une nouvelle proposition un petit peu avant à Monseigneur, disant bon, et finalement ce cardinal visiteur, eh bien il n'aura aucun pouvoir, simplement pouvoir d'inspection, pouvoir consultatif, si vous voulez. Il ira visiter vos œuvres et il nous fera un rapport, mais il n'aura aucune autorité sur vos œuvres, sur vos séminaristes, à laquelle, donc, cette proposition, Monseigneur répondait le 1er octobre, mais une lettre tout à fait heureuse, tout à fait bonne. Et votre lettre du 28 juillet serait-elle... Non, là, je dois un petit peu brouiller, mais c'est pas grave. Serait-elle l'aube d'une solution? C'était une lettre antécédente, ça. Ça n'est pas grave. Oui, on sentait déjà, Monseigneur, quand même, plein d'espérance. Et je crois qu'effectivement, Monseigneur a été plein d'espérance. Plein d'espérance, plein de confiance. Je serais presque tenté trop. Hein, parce que quand parfois on lui dit, mais enfin, il nous a cassé toute notre espérance, je crois qu'on a d'abord cassé la sienne. Parce qu'effectivement, il y a certaines lettres de Monseigneur qui sont bouleversantes, hein, bouleversantes d'espérance. Vraiment, il y a un moment, il y croyait. Hein, il y croyait, c'était possible. Et puis après, ben, il s'est passé d'autres choses. Donc, ces nouvelles propositions qui font que le 3 octobre, eh bien, Monseigneur donc, fait un jubilé tout à fait paisible, tout à fait heureux. Au contraire, il parle dans son sermon de nouvelles propositions favorables qui lui avaient été faites. Et c'est donc ensuite la nomination donc, du cardinal Gagnon, que l'on savait être estimé dans le milieu. Donc, on nous propose un cardinal que nous aimions. Et cette visite du cardinal Gagnon se réalise entre le 11 novembre et le 9 décembre. Visite dont vous avez été témoins, tous, plus ou moins, au cours de laquelle il n'a cessé de nous, je veux dire, de nous abreuver de compliments. Parfois, on avait l'impression même qu'il en faisait un peu trop. On dit, bon, enfin, quand même, on n'est pas si bon que ça. Oui, enfin, on n'est pas trop mauvais, mais enfin, quand même, quoi, hein, c'est... Jusqu'ici, on n'était pas habitué, enfin, en tout cas, à être traité de cette façon-là. Donc, c'était tout à fait sympathique, tout à fait agréable, et nous étions, quant à nous, pleins de confiance, pleins d'espérance, évidemment, dans le résultat de ce... de cette enquête, de cette visite du cardinal. Et le 5, alors déjà un petit délai, un petit retard. Au début, on nous avait dit que l'affaire devrait se régler à peu près vers Noël. Hein, c'est ce que l'on nous avait dit au début. Bon, Noël se passe, toujours rien. Et finalement, le rapport n'est remis au pape que le 5 janvier. Bon, petit délai, c'est pas trop grave, enfin. Alors, toujours un petit peu embêtant, quand même. C'est pas trop grave, encore. Le rapport est donc remis le 5 janvier, et alors, bon, pendant que j'y pense, eh bien, ce qui est triste et malheureux, eh bien, c'est que depuis le 5 janvier, Monseigneur n'a pu voir ni le rapport, ni le cardinal Gagnon. Disparu, l'un et l'autre. Le cardinal Gagnon, malheureusement, a réapparu depuis quelque temps, mais dans un sens qui n'est plus tout à fait favorable. Si vous lisez ce qu'il dit, les déclarations qu'il fait depuis quelques jours, eh bien, j'avoue que... Enfin, ça fait de la peine, hein, parce que ça n'est pas tout à fait ce qu'il nous avait dit pendant sa visite. Alors, j'avoue que je ne comprends plus très bien. Bon, enfin, voilà. En tout cas, Monseigneur n'a pu voir ni le rapport, ni le cardinal. Pas moyen. Le cardinal à Rome, bon, était toujours occupé, ou bien disparu, ou en voyage, ou je ne sais quoi. Quant au rapport, personne ne l'a vu. Le pape, sans doute, et bon, les gens de Rome l'ont vu, mais personne de chez nous n'a pu voir et avoir communication de ce rapport. Bon. Et en tout cas, au cours des négociations qui ont eu lieu au mois d'avril et mai, le rapport n'a été évoqué nulle part. Nulle part. Et Monseigneur nous disait, le 10 mai quand même, moi je m'imaginais qu'au début des négociations, ben, on parlerait un petit peu du rapport. On dit voilà, bon, finalement, la visite, voilà, les conclusions du cardinal, rien. Rien. Oui, il y a quand même tout un tas de petits faits comme ça qui sont, je dirais, gênants, troublants, quoi, qui empêchent, enfin, qui ont empêché, en tout cas, me semble-t-il, les négociations, eh bien, de se dérouler en toute clarté. Oui. Une sorte de retenue, d'obscurité, bon, qui sont quand même un petit peu gênantes, un petit peu paralysantes, si vous voulez. Si on veut qu'on accorde toute notre confiance à celui qui est en face, eh bien, il faut que celui qui est en face, également, eh bien, je dirais, joue carte blanche. Bon, nous, je crois que pendant cette visite du cardinal, nous avons joué vraiment franc jeu. Hein. On a ouvert toutes nos portes. On n'a rien caché. Bon, il nous a entendus, il nous a vus, etc. Bon, nous n'avons rien caché. Or, bien, malgré tout, Rome nous cache des choses. Alors, sans doute, en ont-ils le droit. Bien sûr, je veux bien, mais enfin, quand même, ce rapport nous concernait. Il me semble que, bon, qu'il était quand même légitime d'espérer savoir ce que ce bon cardinal avait pensé de nous. Impossible de le savoir. Et c'est le 18 mars que Rome propose à Monseigneur la réunion d'une commission avec des experts, etc., bon, pour un petit peu envisager la possibilité de résoudre la situation. Et cette commission d'experts se réunit entre le 13 et le 15 avril. Et il y a l'établissement d'un projet le 15 avril. Un projet, donc, qui va permettre ensuite, eh bien, à Monseigneur Lefebvre de rentrer en lice, si je puis dire, en personne, pour aboutir à ce protocole d'accord. Je crois que c'est important, cela, vous voyez, pour vous montrer, eh bien, quelles étaient les dispositions de Monseigneur au moment de ce fameux protocole. Il y avait eu quand même déjà 3 jours de travail, de négociation par des prêtres de chez nous, avec des théologiens de Rome, donc un travail déjà préparé. Bon, ce qui fait, me semble-t-il, que Monseigneur était quand même, il s'attendait peut-être à trouver un texte, j'allais dire potable, vous voyez, un texte déjà bien avancé. Or, bon, enfin, nous verrons ce fameux rapport, il y a quand même des petites choses qui sont un petit peu gênantes quand même. Bon. Et donc, les dernières réunions de commission se tiennent entre le cardinal, Monseigneur Lefebvre et les experts. Alors, les experts, si vous voulez savoir, je crois qu'on peut vous, dire, vous donner les noms. De notre côté, c'était donc Mgr Lefebvre, bien sûr, les abbétissiers de Malraix et La Roche, donc trois, de notre côté, et de l'autre côté, le cardinal Ratzinger, bien sûr, avec le révérend père Duroux, O.P., qui parle, enfin non, moi, rien, le père Berton, un italien, canoniste, un salésien, et le père Ocaris, théologien espagnol, qui sont tous consulteurs à la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi. Voilà, donc deux journées de négociations qui ont été difficiles. Et le cardinal Ratzinger, hein, pour ceux qui le connaissent, paraît-il, est un homme, fort, hein, fort, intelligent, subtil, persuasif, et qui, semble-t-il, est arrivé plus ou moins à persuader Mgr Lefebvre qu'il y avait dans ce fameux protocole d'accord, eh bien, des choses qui n'y sont pas. Bon. Donc, discussion de ce protocole d'accord qui aboutit, donc, effectivement, les discussions ont eu lieu les 3 et 4 mai, et le protocole a été signé le 5 mai, jour de la fête de Saint-Pie-V, bien sûr, comme nous le savons tous, mais comme eux ne le savent plus. Il paraît qu'ils ignoraient que c'était la Saint-Pie-V le 5 mai. Bon, peu importe. Enfin. Alors, ce protocole, nous pouvons peut-être en parler un petit peu, si, maintenant, quand même. Ce protocole d'accord, j'avoue, sans doute, moi-même, je l'ai dit ici aux étudiants, sur la foi de ce que l'on nous avait dit, et sans doute également, c'est ce que l'on vous avait dit également, nous avions cru, et Mgr Lefebvre également, me semble-t-il, l'avait cru, l'avait compris comme cela. Il y avait d'abord une partie doctrinale dans laquelle, eh bien, le cardinal Ratzinger et nous nous mettions d'accord pour dire qu'il y avait dans le Concile, sa doctrine et les réformes qui avaient suivi le Concile, des points qui n'étaient pas conciliables avec la tradition. Bon, les étudiants qui m'ont entendu, c'est à peu près ce que j'avais quant à moi compris, et parce que Mgr, semble-t-il, l'avait compris ainsi. Et effectivement, comme Mgr nous l'a présenté, il nous dit que c'était inespéré, ce troisième point. Il nous dit c'est ce qui a fait passer la pilule. Et voilà, bon, le fait que le Vatican accepte de reconnaître qu'il y avait des points non conciliables avec la tradition, ah, j'avoue que ça m'a fait avaler des choses qui, après, étaient peut-être un peu plus gênantes. Oui. Or c'est là qu'effectivement, moi, je pense qu'il y a un certain mystère. Hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je dirais, seul le Saint-Esprit le sait. Car voici le texte du protocole, enfin, le début du moins, texte de la déclaration doctrinale. Alors, attention, moi, Marcel Lefebvre, il n'y a pas marqué moi, Joseph Ratzinger. Moi, Marcel Lefebvre, archevêque émérite de Tulle, ainsi que les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis par moi fondée. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points que nous reconnaissons. Mais attention, c'est une reconnaissance qui est unilatérale. Vous voyez, premièrement, bon, je pense que c'est bilatéral, ça, quand même. Bon, nous promettons d'être toujours fidèles à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, etc. Bon, pas de problème, ça, là-dessus. Nous n'avons jamais contesté la suprématie, la primauté du pontife romain, bien sûr. Deuxièmement, nous déclarons accepter la doctrine contenue dans le numéro 25 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, du Concile Vatican II sur le magistère ecclésiastique et l'adhésion qui lui est due. Pas de problème, effectivement. Si vous allez lire ce chapitre 25, c'est de la bonne doctrine, pas de problème. Troisième point, nous voici ce fameux troisième point. À propos de certains points enseignés par le Concile Vatican II, ou concernant les réformes postérieures de la liturgie et du droit, et qui nous paraissent difficilement conciliables avec la tradition, est difficilement conciliable. C'est difficile, mais bon, pas impossible. Oui, chaque mot compte là-dedans. Hein. Donc à propos de certains points, etc., qui nous paraissent difficilement conciliables avec la tradition, nous nous engageons, nous, Mgr Lefebvre et la fraternité, à quoi ? À avoir une attitude positive d'étude et de communication avec le siège apostolique en évitant toute polémique. Voilà, voilà le fameux troisième point. Bon, en clair, que signifie ce troisième point ? Eh bien, nos contestations, nous les présenterons en sourdine, gentiment, en tout cas, en évitant toute polémique. Bon, c'était pratiquement, pour Mgr Lefebvre, eh bien, s'engager à ne plus contester ouvertement, publiquement, certaines définitions, ou certaines déclarations, certaines orientations du Concile, que nous estimons quand même dangereuses, et contre lesquelles nous bagarrons depuis 25 ans, Alors, ce troisième point, en fait, il me paraît beaucoup plus défavorable que favorable. Parce que le cardinal, là-dedans, lui, il ne s'engage à rien. C'est nous qui nous engageons à mettre un bémol, si je puis dire, à faire ça gentiment. Nous déclarons, quatrième point, reconnaître la validité du service de la messe. Bon, ça va bien. Et enfin, cinquième point, sur la discipline commune de l'Église, pas de problème. Bon. Oui, ça me paraît important, cela. Alors, c'est là que je, me semble-t-il, tous ces... Bon, nous y reviendrons, mais enfin, toutes ces... Peut-être après avoir signé ce protocole, Monseigneur a-t-il, l'a-t-il relu, a-t-il médité, prié, réfléchi, peut-être s'est-il aperçu que finalement, il y avait un truc, et que, grosso modo, il s'était peut-être fait un peu piégé. Je ne peux pas vous dire, mais... Ce qui pourrait expliquer, justement, qu'après, il a dit, mais attention, je demande d'autres garanties. Bon, enfin, nous y reviendrons. Ensuite, vous avez dans ce protocole des questions juridiques, alors pour la question de la fraternité, qui serait érigée en société de vie apostolique, bon, tout va bien, etc. Bon. Ensuite, le fameux problème de la commission romaine, parce que c'est là-dessus que, finalement, ça a chopé. Je crois que ce n'est un secret pour personne. Une commission pour coordonner les rapports entre les divers dicastères et les évêques diocésains, ainsi que pour résoudre les problèmes éventuels et les contentieux, sera constituée par les soins du Saint-Siège et pourvue des facultés nécessaires pour traiter les questions indiquées ci-dessus, par exemple l'implantation à la demande des fidèles d'un lieu de culte, etc. Bon. Cette commission, là je crois qu'il y a un tout petit mot qui est très important, cette commission serait composé d'un président, d'un vice-président et de 5 membres, dont 2 de la fraternité. Je dis bien, cette commission serait. C'est inconditionnel. Il n'y a pas cette commission sera. Oui, c'est peut-être une nuance, mais qui me paraît importante en l'occurrence. Oui. Serait, ça laisse comme la porte ouverte, justement, puisque ça n'est qu'un protocole d'accord. Ce n'est pas un accord définitif encore. C'est un protocole pour un accord futur. Oui. Bon, ça laisse la porte ouverte, puisqu'il y a un conditionnel à une négociation future pour peut-être modifier un petit peu la composition de cette commission. Cette commission serait composée. Et j'avoue que je comprends que Monseigneur, ensuite, après avoir peut-être un peu réfléchi, justement, se soit dit, mais attention, 5 contre 2, la partie n'est pas très, très égale. Et ça pose, encore une fois, la question de la confiance, justement. Oui, bien sûr. Bon. Et même en dehors de toute question de confiance, qu'est-ce que vous voulez, nous, on est des... nous sommes des blancs-becs, on a beau faire, même si on commence à prendre quelques cheveux blancs, tous les rouages de l'administration vaticane, nous faisons rouler dans la farine en 3 coups de cuillère à peau, c'est sûr, c'est normal, à la limite, on n'est pas du tout préparé à ça. Alors imaginez un peu la situation de ces 2 pauvres prêtres de la fraternité face à 5... le cardinal Ratzinger, qui serait le préfet de cette commission, et puis 4 autres vieux durs à cuire, un petit peu, du Vatican. On ne fait pas le poids, si vous voulez. Bon, normal. Alors, c'est pourquoi, ensuite, Monseigneur va demander à ce que cette répartition soit un petit peu corrigée. Et ça me paraissait quand même légitime. Bon, ça ne me paraît pas outré faire une demande pareille. Oui, bon. Alors ensuite, pour cette commission aussi, un autre point là qui inquiétait un peu Monseigneur, et il nous en avait parlé déjà, Elle aurait en outre la fonction de vigilance et d'appui pour consolider l'œuvre de réconciliation et régler les questions relatives aux communautés religieuses ayant un lien juridique ou moral avec la fraternité. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce protocole d'accord, bon, régler, enfin, dans cet accord, s'il avait été signé comme ceci, régler le cas de la fraternité, mais ne régler pas le cas des autres communautés, les dominicains, les bénédictins, les capucins, et je dirais encore pour eux, ou l'abbé Le Carreux, ouais, je dis encore pour eux, la situation n'était pas trop grave, parce qu'il y a une petite cellule, il y a une communauté organisée avec les prêtres, ils se donnent des sacrements, si je peux dire, entre eux, ça va bien, bon, ils peuvent vivre avec ça. Et puis les communautés des religieuses, attention, hein, dont la situation est beaucoup plus fragile, parce que les religieuses, toutes seules, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont à la merci de... Oui. Imaginez ensuite un accord signé dans ces conditions. Bon, il va falloir régler les problèmes, comment un petit peu régulariser la situation des dominicaines de par-ci, dominicaines de par-là, etc. Bon, voilà. On va envoyer un visiteur, il va voir un petit peu comment ça se passe, il va commencer à discuter avec les petites sœurs, etc. Bon, alors vous savez, pour mettre le trouble dans les esprits, on ne fait pas beaucoup mieux, enfin, du moins c'est possible, vous voyez, en tout cas. Et ça laissait quand même la porte ouverte un petit peu, c'était un petit peu abandonné plus exactement, mais les autres communautés, que la fraternité, à leur propre force. Et ça, Monseigneur, je pense, estimer ne pas pouvoir le faire. Il dit, je n'ai pas le droit de les abandonner. Ça fait 20 ans qu'ils me soutiennent, tous ces gens-là, je ne peux pas les abandonner comme ça. Il faut que leurs problèmes soient réglés en même temps que le nôtre. Et moi, ça me paraît également quand même honnête. Quand même. Bon, hein, bon. Bien, alors ensuite, d'autres questions administratives. Alors ensuite, bien sûr, la grande question, c'est celle de l'évêque. Ordination. Pour les ordinations, il faut distinguer deux phases. Dans l'immédiat, pour les ordinations prévues à brève échéance, Mgr Lefebvre serait autorisé à les conférer, ou s'il ne le pouvait, un autre évêque accepté par lui. Bon. Voilà. Et une fois érigée la société de vie apostolique, donc une fois les choses réglées, autant que possible, voyez, donc quelle aurait été la démarche normale aux yeux du Vatican, autant que possible et au jugement du supérieur général, suivre la voie normale, remettre les lettres dimissoriales à un évêque qui accepte d'ordonner les membres de la société. Donc la voie normale, ça aurait été le supérieur général de la fraternité présentant des candidats au sacerdoce formés dans nos séminaires à des évêques qui veulent bien les ordonner. Voilà quelle était la procédure normale, autant que possible. En raison de la situation particulière de la fraternité. Alors, ça n'est pas... aux yeux du Vatican, ce n'était pas la démarche normale. Oui. Bon. En raison de la situation particulière, ordination d'un évêque membre de la fraternité qui, entre autres tâches, aurait aussi celle de procéder aux ordinations. Problème de l'évêque, pour des raisons pratiques et psychologiques, apparaît l'utilité de la consécration d'un évêque membre de la fraternité. L'utilité. Pas marqué la nécessité, l'utilité. Bon, de dire que je pinaille, mais enfin... Vous savez, dans ce genre de texte, chaque mot a son importance, rien n'est fait au hasard. C'est pourquoi, dans le cadre de la solution doctrinale et canonique de la réconciliation, nous suggérons au Saint-Père de nommer un évêque choisi dans la fraternité sur présentation de Mgr Lefebvre. Bien. Mais il paraît opportun qu'il soit membre de la commission romaine. Cet évêque aurait été membre de la commission romaine. Donc, dans la commission, 5 de Rome, un évêque de chez nous et puis un autre théologien de chez nous. Bon, ensuite, d'autres problèmes particuliers qui... on ne va pas s'étendre sur tout. Voici donc quel est effectivement ce protocole d'accord que Mgr Lefebvre a signé, effectivement, le 5 mai. Alors, c'est ensuite, sans doute, moi, je ne sais pas, peut-être prière... inquiétude, en tout cas, il nous a confié de ne pas avoir dormi la nuit suivante. Et c'est au matin du 6 mai qu'il a écrit au cardinal Ratzinger disant « Attention, il y a un problème ». Parce qu'il faut également ajouter, et bien sûr ceci n'apparaît pas dans les textes, il faudrait que nous ayons le contenu de toutes les conversations, tout ce qui a pu se dire autour de ces tables de négociation. et qui permet peut-être à Monseigneur Lefebvre, justement, bien de tirer, enfin, je dirais de discerner un peu quelles étaient les intentions des personnes qu'il avait en face de lui. C'est ce qu'il nous dit. Ils se sont dévoilés clairement. Alors ça, beaucoup plus, bien sûr, dans les conversations que dans le texte lui-même. Déjà, on le sent dans le texte. Hein. Ce troisième point, c'est « mettez une sourdine », à peu près. Et le cardinal Ratzinger lui a dit, entre autres, au cours de ces conversations, « Alors, Monseigneur, hein, qu'il soit bien entendu qu'une fois que l'accord sera signé, nous vous acceptons, mais vous nous acceptez. Ça veut dire, eh bien, que vous arrêtez, vous allez cesser de détourner vos fidèles des nouveaux sacrements, des nouveautés du concile, de la nouvelle messe. Il faut que tout ceci soit fini. On vous accepte, acceptez-nous. Ouais. Et puis, il sera tout à fait légitime, lui disait-il encore, tout à fait légitime, et bien que dans les prieurés, les paroisses, les centres de messe que vous aurez, bon, très bien sûr, on vous les laissera. Bien, s'il y a des fidèles qui demandent la nouvelle messe, eh bien, vous devrez la leur donner. Et par exemple, à Paris, eh bien, le cardinal Lustiger sera tout à fait habilité à demander qu'à Saint-Nicolas du Charbonnet, il y ait une messe dans le nouveau rite de Célébreux. Oui, bon, alors ça, bien sûr, ce n'est pas dans le protocole. Donc, on nous dit, quand on dit, hein, bon, il voulait nous, un petit peu nous récupérer, nous mettre la main dessus et nous réduire au silence, on dit, mais vous faites des jugements téméraire, non, quand même. Bon, bien sûr, moi, je n'étais pas au cours de ces... Je n'étais pas présent à ces négociations, mais enfin, Monseigneur y était, et deux prêtres de chez nous y étaient, et tout cela, il a entendu. Donc, ce qui manifeste un peu quel était l'esprit, l'état d'esprit des interlocuteurs de Monseigneur. Hein. C'est pourquoi, donc, eh bien, d'autant plus, alors ensuite, après la question de l'évêque, quand Monseigneur a demandé, bon, très bien, cet évêque, parfait, merci, mais quand allons-nous ordonner, consacrer cet évêque? Le 30 juin, ça y est, tout est prêt, ça, voilà, pas de problème. Pensez donc, le 30 juin, c'est bon. C'est beaucoup trop tôt, le 30 juin. Beaucoup trop tôt, on n'a pas le temps de se retourner. Voyez, bon. Alors quand, le 15 août, pouf, 15 août, pensez donc, c'est pas possible, le 15 août. Tous les bureaux à Rome sont fermés, du 15 juillet au 15 septembre. Bon, 15 août, c'était pas possible. Après, c'est devenu possible. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. Bon, alors quand, à la rentrée, bon, la Toussaint, pff, on ne peut pas vous dire, on ne peut pas vous dire. Bon, bah, Noël, fixez-moi une date, on ne peut pas vous dire. Dis, bon, ça va, j'ai compris. Ils ne veulent pas fixer de date. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous promet quelque chose, mais quand il faut fixer, déterminer le terme, le point de chute, le point d'arrivée, il n'y a plus rien. Alors, une promesse qui a tant de mal à se concrétiser, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous voyez, tout un tas quand même d'inquiétudes, hein, qui ont tourné donc dans la tête de Monseigneur. Et c'est pourquoi, eh bien, le 6 mai au matin, effectivement, Monseigneur a écrit au cardinal Ratzinger une lettre que je n'ai pas, dans laquelle il lui disait, eh bien, vous savez, moi, ce protocole que j'ai signé, finalement, il ne me donne pas toute satisfaction, hein, et je demande au Saint-Père de m'autoriser à consacrer mes quatre évêques, là, le 30 juin. Monseigneur avait proposé les dossiers de ces quatre évêques, déjà depuis quelque temps, et vous avez eu le temps d'étudier les dossiers, donc cela peut être trop difficile, hein, d'établir le mandat pour que nous l'ayons le 30 juin. On était le 6 mai, quand même, une signature, il faut, bon, voilà, ça peut aller assez vite. Hein. Bon, alors, le cardinal a répondu dans la journée même, comme quoi, ça peut aller très vite, voyez, quand on veut, hein, disant, bon, puisque c'est comme ça, bien, on va reconsidérer les choses, enfin, voilà, patience. Alors ensuite, il y a eu d'autres négociations, d'autres échanges de correspondances, le 20 mai, le 24 mai, la Pentecôte, après la Pentecôte encore, bon, dans lesquelles, eh bien, les négociations se sont faites un peu plus serrées. Et Monseigneur demandait deux choses, en définitive, vous voyez, eh bien, deux choses. Le premier point, c'était la modification de la commission. Il me paraît, quant à moi, que c'était possible, légitime, ce n'était pas contraire au terme du protocole, ouais, de demander la modification de la commission. Et puis ensuite, deuxième point, eh bien, c'était la question des évêques, bien sûr. Alors, la réponse du cardinal Ratzinger date du 30 mai. Et voici ce que répond le cardinal Concernant le premier point, le Saint-Père juge qu'il convient de s'en tenir aux principes fixés dans le point du protocole que vous avez accepté. Donc la commission, eh bien, il faut s'en tenir là. Cette commission est un organisme du Saint-Siège au service de la fraternité et des diverses instances avec lesquelles il faudra traiter pour établir et consolider l'œuvre de réconciliation. De plus, ce n'est pas elle, mais le Saint-Père qui, en dernière instance, prendra les décisions. Alors, un peu malicieusement, je me pose la question, mais alors à quoi servait-elle? Si ce n'est pas elle qui prend les décisions, bon, petite malice en passant. Bon. La question d'une majorité ne se pose donc pas. Les intérêts de la fraternité sont garantis par sa représentation au sein de la commission et les craintes que vous avez exprimées par rapport aux autres membres n'ont pas lieu de persister dès lors que le choix de ses membres sera effectué par le Saint-Père lui-même. Bon, est-ce que c'est de nature à nous rassurer, cela, je ne sais pas. Hein, bon, le Saint-Père lui-même, je ne sais pas si c'est lui qui fait lui-même, effectivement, toutes les nominations à Rome, mais parfois on peut s'inquiéter quand on voit certaines nominations. Donc, je ne sais pas si cette argumentation était tout à fait celle qu'il fallait pour rassurer Monseigneur. Pour ce qui regarde le second point, et là je crois qu'il y a un point très important, qui est capital pour la suite, le Saint-Père confirme ce que je vous ai déjà indiqué de sa part, à savoir qu'il est disposé à nommer un évêque membre de la fraternité. Il est disposé à nommer un évêque membre de la fraternité. Ceci implique donc ce que Monseigneur dira dans sa lettre au pape et dans d'autres lettres, eh bien que le pape était d'accord pour que Monseigneur transmette l'épiscopat. Pardon, pour que Monseigneur transmette l'épiscopat. Puisqu'il est d'accord, il est disposé à nommer un évêque membre de la fraternité et à faire accélérer le processus habituel de nomination de manière à ce que la consécration puisse avoir lieu pour la clôture. Qui était quand même soumise à l'accélération du processus habituel de nomination. Ceci requiert, alors c'est là aussi qu'il y avait un petit obstacle, ceci requiert d'un point de vue pratique que vous présentiez sans tarder à sa sainteté un nombre plus élevé de dossiers de candidature pour lui permettre de choisir librement un candidat qui corresponde au profil envisagé dans les accords, etc. etc. Autrement dit, voyez, d'accord pour un évêque, on va essayer d'accélérer les choses pour que ça puisse se faire le 15 août, mais proposer d'autres candidats. Autant que je sache, habituellement, quand on veut, pour la nomination d'un évêque, on propose 3 candidats. Monseigneur en avait proposé 4. Il était au-delà, si je peux dire, du tarif habituel. Comme par hasard, aucun des 4 ne convenait. Bon, autrement dit, le 30 mai, Monseigneur se trouvait pratiquement devant tout à refaire. Il fallait retrouver d'autres candidats. Se trouver, je veux bien, enfin, donc reconstituer des dossiers, bon, il faut un petit peu de temps pour tout cela, les envoyer à Rome, que Rome les examine. Bon, combien de temps tout cela peut-il prendre? Moi, je ne sais pas, mais enfin, Rome n'est pas toujours très, très pressé. Et imaginez, bien que l'on dise à Monseigneur, je ne sais pas, aux alentours du 1er août, 2 août, bon, mais vous savez, finalement, les 4 nouveaux, ou 5, ou 6, ça ne va pas encore, il nous en faudrait d'autres, et bon. Bien sûr, j'imagine, je brode un peu. Bon, mais oui, je dirais qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de garanties très, très sérieuses. Oui. Bon. Alors, en plus, dans cette lettre, on demandait à Monseigneur une lettre pratiquement dans laquelle, eh bien, il présentait des excuses pour ce qu'il avait entrevu de faire, ses histoires de sacre, etc. Donc, une petite exigence en plus, oui, 30 mai. Bon, alors c'est à la suite de cela, après réflexion, prière quand même. C'est le 30 mai que Monseigneur avait réuni au pointé les représentants, enfin les chefs, disons, de toutes les communautés amies, hein, toutes celles qui mènent le combat avec nous depuis toujours, pratiquement. Il les avait tous réunis, hommes et femmes, donc il y avait le barou, les capucins, les dominicains, l'abbé Le Carreux, le père André, l'abbé Coache. Il y avait les sœurs de Fangeau, les sœurs de Brignoles, les sœurs de la Fraternité. Je parle un petit peu tout le monde. Voilà, tous les gens qui se battent avec nous. Hein. Ils les avaient réunis pour leur exposer un petit peu, leur faire un peu le point de la situation. Et puis leur demander un petit peu leurs sentiments. Ce n'était pas une consultation démocratique. Ce n'est pas tout à fait la manière de Monseigneur, vous voyez. Et prendre un petit peu la température, et puis y réintéresser, si on peut dire, toutes ces communautés comme une décision qui engageait leur avenir également. Et donc ceci le 30 mai, et puis le 2 juin, eh bien c'est là qu'il a écrit au pape donc cette lettre que vous avez peut-être lue, puisqu'elle a été publiée, je crois, dans certains journaux. Bon, je ne vais donc pas la lire intégralement. Juste un passage, peut-être le plus important. C'est pourquoi nous demandons plusieurs évêques choisis dans la tradition et la majorité des membres dans la commission romaine afin de nous protéger de toute compromission. Étant donné le refus de considérer nos requêtes et étant évident que le but de cette réconciliation n'est pas du tout le même pour le Saint-Siège que pour nous. Et bon, aux yeux de Mgr Lefebvre, le but du Saint-Siège dans cette réconciliation, eh bien, c'était pratiquement de nous réduire au silence. Bon, de nous banaliser un petit peu dans l'église du concile, puisqu'ils disent qu'il n'y a qu'une église, c'est l'église conciliaire. Bon. C'était donc un petit peu banaliser notre situation, nous faire taire un petit peu, alors que pour nous, je crois, quand même, aux yeux de Monseigneur et de nous tous, cette réconciliation, ben nous la désirons, eh bien parce que nous voulons continuer à exercer notre apostolat, eh bien dans un cadre légal, bon, sans être tout le temps persécuté, chassé de droite et de gauche, etc. Voilà ce que nous demandons. Si vraiment le cardinal Gagnon estime que ce que nous faisons est bon, eh bien, faut qu'on nous donne les moyens de continuer, le bien que nous faisons. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et si ce que nous faisons n'est pas bon, ben, il n'y a pas d'accord à faire avec nous, alors. Si ce n'est pas bon, on nous condamne et puis c'est fini. Il n'est pas d'accord avec nous. C'est l'un ou l'autre. Et ça aussi, c'est une des choses. Hein. Bon, bien sûr, tout ceci, ce sont des convictions que Monseigneur a prises dans ses dialogues, dans ses conversations avec le cardinal. Il nous disait ce qui avait de plus douloureux dans toutes ces conversations, c'est que jamais, 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 nous n'avons pu avoir la moindre considération surnaturelle. L'Église, le bien des âmes, la foi, le salut, etc. Pas une fois, il n'en a été question. Toujours du juridisme, etc. Bon, qui n'est pas à négliger, je veux bien, c'est sûr. L'Église également est une société qu'il faut organiser, c'est bien évident. Mais elle a quand même une autre dimension. Bien, cette autre dimension surnaturelle, mystique, divine, pas une fois, il n'en a été question. C'est quand même un peu douloureux, parce que je crois que si nous considérions la situation à ce plan-là, à ce niveau-là, mais à ce moment-là, l'accord, il doit s'établir tout de suite. Si on considère le bien de l'Église, le bien des âmes, ben je crois qu'il n'y a plus de désaccord. Il ne peut plus y en avoir, si tout le monde considère ce point de vue, bien sûr. Voilà. Donc, étant évident que le but de cette réconciliation n'est pas du tout le même pour le Saint-Siège que pour nous, nous croyons préférable d'attendre des temps plus propices au retour de Rome à la tradition. C'est pourquoi nous nous donnerons nous-mêmes les moyens de poursuivre l'œuvre que la Providence nous a confiée, assurée par la lettre de son éminence le cardinal Ratzinger datée du 30 mai, que la consécration épiscopale n'est pas contraire à la volonté du Saint-Siège, puisqu'elle est accordée pour le 15 août. Vous voyez, c'est ça qui est important. La consécration épiscopale en tant que telle, le fait de transmettre l'épiscopat n'est pas contraire à la volonté du Saint-Siège. Ce qui est contraire éventuellement, bon, c'est vrai quand même, il ne faut pas se voiler la face quand même, hein. Ce qui est contraire à la volonté du Saint-Siège, c'est la date et les candidats. D'accord ? Bon, parfait. Bon, d'accord, c'est vrai, ça, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais sur le fait, sur la possibilité, le droit de transmettre l'épiscopat, on est d'accord. Le Vatican, Rome, est d'accord. Et c'est le plus important. C'est le plus important, un des prêtres qui était aux négociations nous disait, bien que certains canonistes romains disaient, mais les candidats et la date, ça, ce sont des détails. Pas nous qui disons, c'est eux. Nous sommes, ça, c'est des détails, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on vous ait donné le droit de sacrer. Et c'est vrai que c'est important. C'est le plus important. Bon, voilà. Alors ensuite, bien sûr, la réponse du pape, qui ne répond pas aux questions, bon, quant à ses requêtes, oui, ces deux requêtes de Monseigneur, qui ne répond pas, bon, qui l'appelle, bien sûr, à l'unité. Bon, je ne vous la lis pas, ce serait un petit peu long, vous voyez. Et voici donc à peu près où nous en sommes, quoi, hein, cette réponse du pape. Alors, Monseigneur Lefebvre, peut-être avez-vous vu ça dans les journaux, je crois que c'est aujourd'hui, tout simplement, a donné à la presse un communiqué pour expliquer, justement, ce sera un petit peu la réponse à la première objection. Pourquoi avoir signé ce protocole, alors? Mais déjà, je crois que vous voyez un petit peu dans quel cadre ça s'est passé. Donc, vous avez déjà quelques éléments de réponse. Pourquoi a-t-il signé? Moi, je crois essentiellement, si on peut faire un reproche, j'ai le droit de lui faire un reproche, ce que je ne me permets pas quand même, mais c'est peut-être qu'il aura trop fait confiance. Alors, évidemment, on peut reprocher à quelqu'un, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, plutôt, de trop faire confiance à son père? Normalement, non. On ne peut jamais trop faire confiance à son père. C'est sûr, ça. Bon, et puis après, Monseigneur a réfléchi un peu, dit, mais finalement, peut-être que, effectivement, j'ai un peu trop fait confiance. Et ça, je dirais, c'est typique de Monseigneur. A priori, je dirais, à la limite, il serait un peu naïf. Oui. A priori, il a toujours, et ça, c'est très catholique, oui. Ce réflexe bienveillant. On suppose le bien chez celui qui est en face. Et puis, c'est peut-être après qu'on dit, mais tiens, oula, attention. Ben, je ne sais pas, ça c'est une interprétation toute personnelle. Oui. Bon, et ensuite, donc, ce communiqué qui est daté du 19 juin, donc c'est tout récent. On comprend en effet difficilement cet arrêt si on ne replace pas les colloques dans leur contexte historique. C'est un petit peu ce que nous avons fait. Oui. Bien que nous n'ayons jamais voulu rompre les relations avec la Rome conciliaire, même après que la première visite de Rome le 11 novembre 1974, était suivi par des mesures sectaires et nulles. La fermeture de l'œuvre le 6 mai 1975 et la suspense en juillet 1976, ces relations ne pouvaient avoir lieu que dans un climat de méfiance. Et c'est sûr, depuis le début, un certain climat de méfiance, puisque on nous a frappés de façon injuste, inique, illégale. Bon, je passe un petit peu. Ils veulent absolument que nous ayons un complexe de culpabilité vis-à-vis d'eux, alors que ce sont eux qui sont coupables de duplicité. Évidemment, c'est un peu fort, ça, d'accord. Mais vous voulez, hein, bon. Quand on est à la guerre, hein, faut pas interdire aux soldats d'employer des munitions, quand même. Hein. Bon. C'est donc dans un climat toujours tendu, quoique poli, que les relations avaient lieu avec le cardinal Sepper et le cardinal Ratzinger entre l'année 76 et l'année 87, mais aussi avec un certain espoir que, l'autodémolition de l'Église s'accélérant, on finisse par nous regarder avec bienveillance. Jusque-là, pour Rome, le but des relations était de nous faire accepter le concile et les réformes et de nous faire reconnaître notre erreur, etc. Le 28 juillet, le cardinal Ratzinger ouvrait de nouveaux horizons qui pouvait légitimement faire penser qu'enfin Rome nous regardait d'un œil plus favorable. Il n'était plus question de documents doctrinaux à signer, plus question de demande de pardon, mais un visiteur était enfin annoncé. Nous avons alors accepté d'entrer dans ce nouveau dialogue, etc. Bon. Les colloques qui ont suivi nous ont bien déçus. On nous remet un texte doctrinal, on y ajoute le nouveau droit canon. Rome se réserve 5 membres sur 7 dans la commission romaine, dont le président et le vice-président. La question de l'évêque est solutionnée avec peine. On insistait pour nous montrer que nous n'en avions pas besoin. Le cardinal nous fait savoir qu'il faudrait alors célébrer une messe nouvelle à Saint-Nicolas du Chardonnay. Il insiste sur l'unique église, celle de Vatican II. Malgré ces déceptions, je signe le protocole du 5 mai. Mais déjà, la date de la consécration épiscopale fait problème. puis un projet de lettre de demande de pardon au pape m'est mis dans les mains. Je me vois obligé d'écrire une lettre menaçant de faire les consécrations épiscopales pour arriver à avoir la date du 15 août pour la consécration épiscopale. Le climat n'est plus du tout à la collaboration fraternelle et à une pure et simple reconnaissance de la fraternité. Pour Rome, le but des colloques est la réconciliation, comme le dit le cardinal Gagnon dans un entretien accordé au journal italien L'Avvenire, c'est-à-dire le retour de la brebis égarée dans la bergerie. Bon, donc, Monseigneur, explique un peu, si vous voulez, ce que je vous ai expliqué, un petit peu pourquoi, effectivement, bien ces négociations, ben, finalement, on t'a chopé. Alors, bien sûr, nous avons tous eu un moment de grande espérance, c'est vrai. On y a cru, quand le protocole d'accord a été signé, nous y avons cru, tous. Bon, puis ensuite, eh bien, les négociations se prolongeant et finalement se heurtant à des refus de Rome de reconsidérer les choses, de continuer un petit peu à discuter, et au contraire, accumulant de nouvelles exigences, eh bien, Monseigneur dit, eh bien non, on ne peut plus, on ne peut plus. Et je crois que le plus dramatique là-dedans, justement, c'est ça, c'est que la confiance est cassée. Et seulement la confiance est cassée, la confiance, ça ne s'ordonne pas, ça ne se commande pas, la confiance. La confiance, ça se mérite, ça s'obtient, la confiance, oui. Si depuis 25 ans, on nous avait un petit peu écoutés, un petit peu, je sais pas, un petit peu accueillis, bon, réprimandés, on veut bien être réprimandé, c'est bien évident, quand on fait des bêtises, mais quand même traités un peu comme des êtres humains, comme des catholiques, quand même, et peut-être que la confiance serait demeurée. Hein? Ce qui est étrange, d'ailleurs, c'est que c'est maintenant, eh bien, qu'on s'aperçoit que les autres, si je peux dire, se mettent à nous aimer. C'est frappant. On lit les journaux, oh, ils sont pleins de tendresse à notre égard. Ils sont prêts à nous accueillir. Eh oui, parce que nous serons bientôt des frères séparés. Enfin, attention, disent-ils. À leur jugement, nous serons bientôt des frères séparés. Alors là, ils n'ont que tendresse pour les frères séparés, les protestants, les orthodoxes, mais ce sont les meilleurs amis du monde. Mais c'est vrai, lisez les journaux, on sent déjà ce système-là qui se met en place. Il commence à dégouliner de tendresse à notre égard. C'est effrayant.
Enfin, effrayant, oui, effrayant, voilà, quand même.
Bon, oui. Mais c'est vrai, ça, et c'est là peut-être le plus grave et le plus douloureux. Et ça, c'est une chose qui sera longue à reconstruire, hein, malheureusement. Hein. Restaurer la confiance. Aujourd'hui, effectivement, nous n'avons plus confiance. Ou du moins, nous nous méfions. Bon, est-ce que nous n'avons pas le droit de nous méfier? Quand même, hein, bon, je crois qu'on a pris pas mal de coups sur la tête, hein, bon, nous avons connu pas mal de déconvenus depuis des dizaines d'années, je crois qu'il est légitime quand même que nous ayons quelques petites méfiances, et que nous demandions des garanties. Il est sûr que dans une situation normale, on ne devrait pas. Et je dirais, ce qui peut-être accroît un petit peu notre douleur et notre méfiance, eh bien, c'est d'abord, vous voyez, ce que nous disions, cette impossibilité où a été Monseigneur de rencontrer le cardinal Gagnon. Bon, il eût été normal, me semble-t-il, que le cardinal Gagnon soit présent aux négociations. Il avait passé un mois avec nous, pourquoi n'était-il pas présent aux négociations? Je crois qu'il pouvait parler, enfin dire un petit peu la vérité, ce qu'il avait vu. Il n'était pas là, impossible de le voir. Le rapport, impossible de le voir. Monseigneur a demandé à voir le pape. Impossible de voir le pape. Le cardinal Ratzinger lui aurait répondu, bon, je schématise peut-être un peu la réponse, mais enfin, pourquoi voulez-vous voir le pape? Il connaît par cœur tout ce que vous avez à lui dire. Vous avouerez quand même, hein. Moi je ne sais pas, j'avoue que je ne veux pas être trop sévère, mais enfin, le pape, de tout temps dans l'Église, on l'a considéré comme le Père. Hein. Le Père, c'est notre Père, oui, c'est notre pasteur. Hein. Et moi, je ne sais pas, mais un cœur de Père, quand il voit un enfant qui est en train de se noyer, qu'est-ce qu'il fait, le papa? Hein? Qu'est-ce qu'il fait, le Père? Moi, je ne sais pas, moi. Hein? Il court. Et l'Évangile est plein. Prenez la parabole de la brebis égarée. Si nous sommes une brebis égarée, comme ils le disent, et qu'attend le pasteur pour venir à notre recherche? Pourquoi le pape ne veut-il pas recevoir Monseigneur de Fer? Pourquoi? Ça, je pose la question, c'est tout. Alors, eh bien, nos objections, plutôt nos réponses aux objections, il faut quand même y répondre. Pourquoi la signature? Eh bien, nous l'avons dit, hein. Peut-être justement cette confiance que Monseigneur a fait quand même à Rome. Et malgré ce que disent certains, je lisais l'autre jour un article dans un magazine qui paraît le samedi, de quelqu'un qui était notre ami, me semble-t-il, pourtant, j'avoue qu'il m'a fait mal, hein, et je pense qu'il nous a fait mal à tous, hein, où il dit que Monseigneur a subi, pratiquement est un vieil archevêque, qui a subi la pression des ultras de son entourage. Mais moi, je crois malheureusement, je crois pouvoir dire qu'une des raisons pour lesquelles Monseigneur a signé le protocole, ça a été la pression de son entourage. Je crois que la pression de son entourage a été plutôt dans le sens, eh bien, de la réconciliation, de la signature. Seulement pour ça, il faut connaître l'entourage de Monseigneur Lefebvre. Il est trop facile d'accuser à distance des gens que l'on ne connaît pas et que l'on ne veut pas connaître. Et puis, peut-être également, cette persuasion également du cardinal Ratzinger. Hein, il paraît qu'il est très persuasif. Alors, est-ce qu'il a brouillé un petit peu les idées de Monseigneur, ça? Je ne sais pas. Bon. Alors, deuxième accusation, bien sûr, la grande objection, la grande accusation, c'est le schisme. Ah, le schisme, ça y est, le schisme. Tout le monde brandit le mot. Mais personne n'en brandit la définition, c'est dommage. Il serait bon d'en sortir la définition. Le jour où le Figaro me donnera la définition du schisme, je serai bien content. L'abbé Laurentin a fait des longues considérations sur le schisme, schisma en grec, la déchirure, etc. Bon, c'est gentil, mais ça ne dit pas ce qu'est le schisme. Bon. Alors, il y a un texte que je ne trouve plus, mais j'espère que je vais le retrouver, ça y est, là, voilà. Un texte, ben, c'est saint Thomas d'Aquin, tout simplement, et le droit canon, même si vous voulez, bon, les étudiants commencent à le connaître par cœur, hein, j'espère du moins, ça fait quelque temps que je les entretiens un peu de ces questions-là. Alors c'est un texte du cardinal Journet, qui je crois n'est pas suspect d'intégrisme, le cardinal Journet, ami de Maritain, ami de Paul VI, donc, hein, bon, voilà. Le péché de schisme s'oppose directement et de soi à l'unité. C'est le péché de celui qui tend à se séparer de l'unité que fait la charité théologale. Alors ensuite, il cite saint Thomas d'Aquin. Ceux-là sont schismatiques qui refusent la soumission au souverain pontife et la communication avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. Et c'est la définition du droit canon. Prenez le droit canon. L'ancien ou le nouveau, eh bien, c'est cette définition que vous avez. Voici l'ancien droit canon. Toute personne qui refuse de se soumettre au souverain pontife et de rester en communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis est schismatique. C'est également la définition du nouveau droit canon. Schisme, le refus de soumission au pontife suprême ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. Donc, c'est clair. Définition du schisme. Alors, saint Thomas d'Aquin explicite un peu, parce que c'est un peu ramassé comme définition. Refuser la soumission, c'est-à-dire refuser d'être et de demeurer sous l'autorité. Ceci est capital. Refuser d'être et de demeurer sous l'autorité. Être soumis, c'est être mis dessous. Bon, c'est du bon français, ça. Bon, c'est pas très difficile à comprendre. Donc, est schismatique celui qui refuse d'être, de demeurer sous l'autorité du pontife suprême. Ce n'est pas celui qui désobéit. Ouais. Je suis sujet de l'autorité. Je dis au pape, vous êtes le pape, vous avez l'autorité, mais plus sur moi. Moi, je me retire de la soumission à votre autorité. Voilà. Et j'agis comme sujet indépendant. Je ne suis plus soumis à votre autorité. Voilà le schisme, voilà la déchirure. Vous voyez. On rompt le lien de soumission. C'est une chose, ça. Et ça, c'est quelque chose de grave et d'important, bien sûr. Voilà ce qu'est le schisme. Et ça, c'est la définition canonique, la définition théologique. Et bon, et puis c'est tout. Donc on ne peut pas appeler schisme ce qui n'est pas un schisme. On l'appelle comme on veut, mais on ne l'appelle pas un schisme. Vous voyez. Et voici ce que dit saint Thomas, il explicite un peu cette question. Cela suppose plus qu'une simple désobéissance, plus même qu'une obstination dans la désobéissance. C'est important, ça. Hein? Cela suppose même plus qu'une obstination dans la désobéissance. Il faut qu'il y ait rébellion. Il faut que tout en croyant de foi divine à la légitimité du pouvoir juridictionnel, je refuse, hic et nunc, de me soumettre à lui, de le reconnaître pour mon supérieur. Voilà le schisme. Je refuse de le reconnaître pour mon supérieur. Refuser d'obéir, ce n'est pas refuser de reconnaître quelqu'un comme son supérieur. C'est tout à fait différent. Tout à fait différent. On peut récuser les décisions du pape. C'est éventuellement désobéir. On peut récuser l'autorité du pape. Ça, c'est être schismatique. Oui, il y a quand même une différence, je crois, assez importante entre les deux. Hein. La raison de schisme, dit encore saint Thomas, suppose non seulement une désobéissance, mais une sorte particulière de rébellion, faite d'un mépris obstiné des préceptes de l'Église, et d'un refus de se soumettre à sa décision. Et Cajetan, qui est un des commentateurs les plus autorisés quand même de saint Thomas, ajoute, si obstinée soit-elle, la désobéissance n'est pas un schisme, tant qu'elle ne comporte pas une révolte contre la fonction du pape ou de l'Église. Tant qu'il n'y a pas révolte contre la fonction du pape ou de l'Église. Si, continuant de reconnaître le souverain pontife comme mon supérieur, je lui désobéis néanmoins, par intérêt ou passion. Il peut y avoir péché très grave de désobéissance, ce n'est pas encore le schisme. Et si je récuse une de ses décisions, dont j'ai l'évidence qu'elle est erronée, étant prêt par ailleurs à lui obéir, il peut n'y avoir aucune faute du tout, dit Cajetan. Si je récuse une de ses décisions, dont j'ai l'évidence qu'elle est erronée, étant prêt par ailleurs à lui obéir, il peut n'y avoir aucune faute du tout. Mais si je refuse de le regarder comme mon supérieur, voilà le schisme. Alors, y a-t-il schisme dans le fait de sacrer les évêques sans mandat pontifical? Y a-t-il schisme? Est-ce que c'est refuser de reconnaître l'autorité du pape? Ou est-ce que c'est lui désobéir? Sur certains points, attention. La désobéissance étant limitée, disons, à la date et au choix des candidats, puisque le pape est d'accord. Hein. Ça me paraît quand même important, tout cela, moi. Hein. Ce n'est pas du pinaillage, hein, pour parler un petit peu familièrement, hein, puisque le pape est d'accord pour que Monseigneur transmette l'épiscopat. Donc il y a effectivement peut-être désaccord et donc désobéissance, mais sur les conditions, les circonstances, appelez ça comme vous voudrez, de la transmission de l'épiscopat. Donc je suis convaincu, quant à moi, qu'il n'y a pas schisme. On pourrait, bien sûr, en plus, tirer argument de ce que dit Monseigneur lui-même, quand même. Je pense que Monseigneur peut difficilement être accusé de mentir ou d'être un hypocrite. À la limite, on pourrait plutôt l'accuser de trop dire ce qu'il pense. Oui. Bon, enfin, l'accuser, je m'entends, bien sûr. Il y a le texte d'une déclaration publique, je ne sais pas si elle a été publiée ou si elle le sera au moment des consécrations. Déclaration publique de Monseigneur dans laquelle il dit « Le pape ne peut que désirer la continuation du sacerdoce catholique. Ce n'est donc nullement dans un esprit de rupture ou de schisme que nous accomplissons ces consécrations épiscopales, mais pour venir au secours de l'Église, qui se trouve sans doute dans la situation la plus douloureuse de son histoire. Nous affirmons donc notre attachement et notre soumission au Saint-Siège et au Pape. En accomplissant cet acte, nous avons conscience de continuer notre service de l'Église et de la papauté, comme nous nous sommes efforcés de le faire depuis le premier jour de notre sacerdoce. Le jour où le Vatican sera délivré de cette occupation moderniste et retrouvera le chemin suivi par l'Église jusqu'à Vatican II, nos évêques seront entièrement dans les mains du souverain pontife, y compris l'éventualité de ne plus exercer leurs fonctions épiscopales. Est-ce que c'est un esprit schismatique? Il y a un autre témoignage, bien sûr, hein, qui est moi qui m'aime beaucoup chaque fois que je le lis. Méfiez-vous si je me mets à pleurer. C'est la lettre que Monseigneur a écrite aux quatre futurs évêques. Alors là, il y a une première phrase qui a fait dire à certains des choses abominables que j'ai lues dans la presse ce matin. Certains de nos amis, hélas, qui disent ceci, nous ne saurions l'approuver, bien sûr il s'agit de Monseigneur Lefebvre, lorsqu'il déclare, la chaire de Pierre et les postes d'autorité de Rome sont occupés par des antichrists. Effectivement, c'est ce que dit Monseigneur dans cette lettre aux quatre candidats. La chaire de Rome et les postes d'autorité de Rome étant occupés par des antichrists. La conclusion qu'en tirent ces personnages, eh bien, si cela était vrai, c'est l'Église qui nous aurait trompés. Et le Christ lui-même, lorsqu'il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je ne vois pas du tout le rapport. Quand Monseigneur dit que la chair de Pierre et les postes d'autorité de Rome étant occupés par des antichrists, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, qu'il y a à Rome des gens qui travaillent contre Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Attention, anti-Christ. Monseigneur ne dit pas que la chair de Pierre est occupée par l'antéchrist. Eh, oh, 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 oh. Il n'a jamais dit ça, il n'a jamais pensé, je peux vous le garantir, hein, quand même. Oui, on a l'impression, justement, que l'interprétation de cette phrase de Monseigneur est outrée. Oui. Parce que tirer argument de cette phrase pour dire, eh bien, que si tel était le cas, l'Église nous aurait trompés et le Christ lui-même, pas du tout impensable, hélas, que l'Église soit infestée par des ennemis de Jésus-Christ. Je dis, mais c'est pas tant. C'est officiel, c'est public, c'est tout le monde le sait, ça. Quand on sait quand même, mais, alors bien sûr, cela peut nous scandaliser, mais quand on sait, c'est un fait historique, hein, je crois, qu'en 1903, un franc-maçon a failli être élu pape. Le cardinal Rampollin était franc-maçon. C'est historique, ça. Tout le monde le sait, maintenant. Il a failli être élu pape à la place de Saint-Pédis. Bon, alors, si vous voulez faire... Est-ce que c'est scandaleux que de dire, bon, 80 ans après, ben, qu'à Rome, il y a des choses qui ne vont pas très bien, quand même. Bon, ça me paraît tout à fait légitime, moi. Et qu'il y ait à Rome des gens qui travaillent contre Jésus-Christ, enfin, quoi... Ça me rappelle une anecdote, c'était... Monseigneur nous racontait cela... au cours d'entretien avec le cardinal Sépère. Le cardinal Sépère lui disant, mais enfin, Monseigneur, quand même, vous exagérez. Vous dites que tous les cardinaux sont francs-maçons. Mais enfin, Monseigneur, ce n'est pas vrai, ils ne le sont pas tous, quand même. Bon, cardinal Sépère, tu m'as dit, ça veut dire qu'à Rome, il y a des francs-maçons. Bon, ben, c'est bon, ça y est, bon. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Ça ne veut pas dire que Rome n'est plus Rome, ça ne veut pas dire que le pape n'est plus pape, ça n'a jamais voulu dire cela. Mais ça veut dire que Rome dans son ensemble, dans son agir, je dirais, collectif, si on peut dire, oui, dans son agir habituel, eh bien, a un mode de gouvernement, un mode d'action, eh bien, qui ne favorise pas le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ça, quand même... Bon, enfin, je ne vais pas refaire tout ce que Monseigneur dit dans son livre, ils l'ont découronné, quoi. C'est évident. Donc, je ne vois pas pourquoi, vous voyez, de cette phrase, on en tire des conclusions que, ça y est, l'Église a défailli. Absolument pas. Ça n'empêche absolument pas le pape d'être pape. Mais on peut être pape et être un mauvais pape. Ça peut arriver, ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, c'est déjà arrivé dans l'Église. Hein. Bon, enfin, voilà. Donc, cette lettre de Monseigneur aux futurs évêques. La chaire de Pierre et les postes d'autorité de Rome étant occupés par des antichrists. La destruction du règne de notre Seigneur se poursuit rapidement à l'intérieur même de son corps mystique ici-bas, spécialement par la corruption de la Sainte Messe, expression splendide du triomphe de notre Seigneur par la croix, regnavit a ligno Deus, et source d'extension de son règne dans les âmes et dans les sociétés. Ainsi apparaît avec évidence la nécessité absolue de la permanence et de la continuation du sacrifice adorable de notre Seigneur pour que son règne arrive. Et c'est le leitmotiv de Monseigneur, pour que son règne arrive. Et c'est ce qu'il avait mis en exergue de cette lettre, Adveniat regnum tuum, que votre règne arrive. Bon. Dieu a suscité la fraternité sacerdotale Saint-Pédis pour le maintien et la perpétuité de son sacrifice glorieux et expiatoire dans l'Église. Il s'est choisi de vrais prêtres instruits et convaincus de ces mystères divins. Dieu m'a fait la grâce de préparer ces lévites et de leur conférer la grâce sacerdotale pour la persévérance du vrai sacrifice selon la définition du Concile de Trente. C'est ce qui nous a valu la persécution de la Rome antichrist. C'est-à-dire de la portion de Rome, de ce qui à Rome est hostile à Jésus-Christ. Cette Rome antichrist, moderniste et libérale, poursuivant son œuvre destructrice du règne de notre Seigneur, comme le prouve Assise et la confirmation des thèses libérales de Vatican II sur la liberté religieuse, je me vois contraint par la providence divine de transmettre la grâce de l'épiscopat catholique que j'ai reçue, afin que l'Église et le sacerdoce catholique continuent à subsister pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. C'est pourquoi, convaincu de n'accomplir que la sainte volonté de notre Seigneur, je viens par cette lettre vous demander d'accepter de recevoir la grâce de l'épiscopat catholique, comme je l'ai déjà conférée à d'autres prêtres en d'autres circonstances. Je vous conférerai cette grâce, confiant que sans tarder, le siège de Pierre sera occupé par un successeur de Pierre parfaitement catholique, en les mains duquel vous pourrez déposer la grâce de votre épiscopat pour qu'il la confirme. Le but principal de cette transmission est de conférer la grâce de l'ordre sacerdotal pour la continuation du vrai sacrifice de la Sainte Messe et pour conférer la grâce du sacrement de confirmation aux enfants et aux fidèles qui vous la demandent. Je vous conjure de demeurer attaché au siège de Pierre, à l'Église romaine, mère et maîtresse de toutes les églises, dans la foi catholique intégrale exprimée dans les symboles de la foi, dans le catéchisme du Concile de Trente, conformément à ce qui vous a été enseigné dans votre séminaire. Demeurez fidèle dans la transmission de cette foi pour que le règne de notre Seigneur arrive. Enfin, je vous conjure de demeurer attaché à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, de demeurer profondément unis entre vous, soumis à son supérieur général, dans la foi catholique de toujours, vous souvenant de cette parole de Saint Paul Galates, chapitre 1, versets 8 et 9. Bien chers amis, soyez ma consolation dans le Christ Jésus. Demeurez fort dans la foi, fidèle au vrai sacrifice de la messe, au vrai et saint sacerdoce de notre Seigneur, pour le triomphe et la gloire de Jésus au ciel et sur la terre, pour le salut des âmes, pour le salut de mon âme. En les cœurs de Jésus et de Marie, je vous embrasse et vous bénis, votre Père dans le Christ Jésus. Marcel Lefebvre. Est-ce que c'est un schismatique qui parle comme ça? Là, c'est l'âme de Monseigneur qui parle. Vous savez, hein, voilà. Je crois que ceux qui accusent Monseigneur sont ceux qui ne le connaissent pas. On peut lui reprocher des maladresses, éventuellement, je veux bien, à la limite, enfin, bon, celui qui n'en fait pas, ça, bien malin. Hein. Mais lui reprocher de n'être plus catholique, de n'avoir plus l'esprit catholique, de ne pas aimer l'Église, de ne pas vouloir servir l'Église au moment de paraître devant Dieu, parce qu'il arrive au bout, hein. Et comme il nous le dit, je me sens partir, j'arrive au bout. Et c'est une des raisons, justement, pour laquelle il ne peut plus attendre. Parce qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il a 82 ans. Il est usé par tous ces, je dirais, toute cette persécution qu'il subit depuis 20 ans et plus même. Parce que les évêques français avaient commencé à le persécuter bien avant. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Alors, au moment de paraître devant Dieu, est-ce que Monseigneur Lefebvre, qui a servi l'Église sous je ne sais combien de papes, est-ce que vraiment son intention est de rompre avec l'Église, avec la communion, dans la charité, de se couper de l'Église? Je pense qu'il faut ne pas le connaître hein, pour supposer une chose pareille. Alors bien sûr, troisième objection. Alors le canon 1382, qu'est-ce que vous en faites? Le fameux canon 1382 qui nous dit... C'est la question, bien sûr, de l'excommunication. Question de l'excommunication. Canon 1382. qui nous dit ceci en termes propres, si je le retrouve, excusez-moi. L'évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu'un évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet évêque, encourt l'excommunication, late sententiae, réservée au siège apostolique. Late sententiae, en bon français, ça veut dire ipso facto. Bon. Voilà. Il faut bien quand même que je la replace, celle-là, si vous voulez. Bon. Alors, l'ennui avec ce canon et ce nouveau droit canon, c'est qu'il est tout neuf, si je peux dire. Il date de 1983, donc nous n'avons pas, je dirais, de jurisprudence vis-à-vis de ce droit. La commission d'interprétation du code qui existe à Rome, eh bien, sans doute n'a jamais été appelée à se prononcer sur les cas dans lesquels s'appliquait ou ne s'appliquait pas ce canon, parce que c'est je dirais, comme tous les articles du droit civil. Bon. Quoi, moi, tout condamné à mort aurait été tranché. Bon, il y a des tribunaux pour ça. On se réunit. Est-ce que la loi s'applique dans tel et tel cas? C'est tout à fait normal. Bien. Il y a donc à Rome une commission d'interprétation du code, mais qui ne nous a pas donné les modalités d'application de ce canon. Alors, quelle est la règle dans ce cas-là? Il y a un juriste de mes amis, professeur dans cette bonne maison, m'a confirmé la chose. J'ai un juriste de haut rang, canoniste qui plus est, m'a tout à fait conforté dans mes recherches un petit peu, dans mes explications, eh bien on se reporte à la pratique de l'Église. Bon, voilà, que faisait l'Église avant? Et on va interpréter ce code à la lumière, eh bien, de la pratique habituelle, courante de l'Église. Alors, je me suis penché un petit peu sur le passé de l'Église. Voilà. Comment faisait l'Église avant? Eh bien, l'ancien droit canon, promulgué par Benoît XV, au canon 2370, nous disait la chose suivante. L'évêque, consacrant un autre évêque sans mandat apostolique, ses assistants, évêques ou prêtres, et l'évêque consacré, sont suspens de plein droit. Ah tiens. L'ancien droit canon ne prévoyait donc, pour le délit en question, que la peine de la suspense. Tiens. Autrement dit, je me dis, a priori, c'est donc que c'est un acte qui est sans doute grave, c'est vrai, c'est quand même quelque chose qui ne doit pas être fait normalement, dans des circonstances normales, mais qui, semble-t-il, en tant que tel, justifie la peine de la suspense. Alors comment est-on arrivé à l'excommunication? Eh bien, c'est Pie XII. Pie XII, en 1951, et ensuite en 1958, dans le cadre de l'Europe orientale, et dans le cadre de la Chine, et Pie XII qui a donc élevé, aggravé la sanction jusqu'au degré de l'excommunication. Alors si on veut comprendre pourquoi cette aggravation, eh bien il suffit de lire peut-être avec bienveillance, bien sûr. C'est parfois difficile à certains, mais enfin. L'encyclique de Pie XII du 29 juin 1958 aux évêques chinois, justement. Eh bien, que dit-il? Et ça apparaît tout au long de son texte. Il dit que cette décision prouve leur intention de se soustraire délibérément à la discipline actuellement en vigueur, la seule qu'ils doivent suivre. Bon. Il parle d'un très grave attentat à l'unité même de l'Église. Vous voyez, tout ceci me paraît important pour comprendre l'esprit de Pie XII. Vous voyez. Très grave attentat à l'unité même de l'Église. Il s'agit d'établir de faux pasteurs pour renverser l'organisation hiérarchique de l'Église pour se rebeller contre l'autorité du pontife romain. Oui, donc quelle était la raison de l'aggravation de la peine dans l'esprit de Pie XII? Eh bien, c'était le contexte schismatique. Parce qu'effectivement, ces consécrations épiscopales étaient faites sous l'impulsion, sous la pression des autorités communistes pour mettre en place, en Europe de l'Est et en Chine, des églises nationales, des églises autocéphales, des églises séparées de Rome, des églises qui s'établiraient donc effectivement en rupture avec Rome, donc des églises schismatiques. Donc il me semble, eh bien que le motif de l'aggravation de la peine, c'est donc le schisme. J'en conclus donc, eh bien qu'une consécration épiscopale, sans mandat, mais sans caractère schismatique ne justifie en tant que tel que la peine de la suspense. Et qu'une consécration épiscopale sans mandat, dans un caractère, enfin dans un cadre schismatique, pour installer une église séparée de Rome, justifie l'excommunication. Late sententiae. Ma conclusion est donc que dans le cas présent, puisque j'ai conclu précédemment qu'il n'y avait pas de schisme, le canon 1382 ne s'applique pas au cas présent. Donc il n'y a pas d'excommunication late sententiae. Donc le 30 juin, si Rome ne dit rien, ne prononce pas d'excommunication, Mgr Lefebvre sera dans le même état que le 29 juin. J'ajoute une précision, contrairement à ce qu'a dit le Figaro il y a quelques jours. Eh oui, je lis le Figaro, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien. J'ajoute que cette excommunication, en tout état de cause, quand bien même on admettrait que le cas soit le cas prévu par le canon, cette excommunication ne frappe que les consécrateurs et les consacrés. Attention, hein. Le Figaro ment lorsqu'il vous dit que tous ceux qui assistent à la cérémonie seront excommuniés. Vous vous rendez compte de la situation? Si Bourdarias est à Écône, il va être excommunié. Mais c'est aussi absurde que ça. Les journalistes qui assisteront aux consécrations, pourquoi ne seraient-ils pas excommuniés? Enfin, il n'y a pas de raison. Si tous les assistants le sont, ils le sont avec nous. Alors ceci est faux, et c'est le droit canon, c'est le canon qui vous le dit. Il suffit de prendre la lettre du canon. Hein. Et saint Thomas d'Aquin nous confirme la chose, attention. Hein. Dans ces questions où il examine l'excommunication, on ne doit être excommunié que pour un péché mortel. Attention, l'excommunication est une sanction qui est grave. Hein. On n'excommunie pas les gens comme ça pour un oui, pour un non. Hein, ça, attention, parce qu'on éternue qu'on est excommunié quand même. Hein. Bon. Que pour un péché mortel. Or, un péché consiste dans un acte personnel. Un acte n'est pas attribuable à toute une communauté, mais à des individus particuliers. Il en résulte que l'on peut excommunier tel ou tel membre d'une communauté, mais pas la communauté tout entière. Saint Thomas d'Aquin. Oui, parce que le péché, il est personnel, il est individuel, il n'est pas collectif. Péché collectif, ça n'existe pas, ça. Une aberration. Alors, si on considère que sacrer un évêque sans mandat est un péché, eh bien celui qui pose l'acte, effectivement, ayant commis le péché, est sanctionné. Et celui qui collabore dans l'acte en recevant, oui, bien sûr, la consécration, également est excommuné. Mais c'est tout, personne d'autre. Oui. Donc le droit prévoit, dans ce cas-là, la seule excommunication des consécrateurs, donc en l'occurrence, eh bien, ce sera les deux évêques qui seront là, plus un prêtre qui remplacera le troisième évêque normalement prévu, et les quatre évêques consacrés, s'il y a excommunication. Or, je maintiens, il ne peut pas y avoir excommunication ipso facto, parce qu'il n'y a pas schisme. Alors bien sûr, le pape peut prononcer une excommunication, ça, c'est sûr, mais il faudra à ce moment-là eh bien, qu'il fulmine l'excommunication, comme on dit en termes canoniques. Alors là, eh bien moi, je me réfère encore un petit peu à saint Thomas d'Aquin, si je le retrouve, au milieu de tous ces papiers, le voici. Saint Thomas d'Aquin, toujours, le bon saint Thomas d'Aquin, eh bien, qui dit qu'une excommunication peut être injuste. Ça peut arriver, des excommunications injustes quand même, ça. Et bien sûr, oui. Et d'autres. Bon. Donc, je reprends mon texte. Une excommunication peut être réputée injuste à deux points de vue différents. Du côté de celui qui excommunie. Par exemple, s'il le fait par haine ou sous le coup de la colère. Dans ce cas-là, eh bien, l'excommunication n'en a pas moins son effet. Quoique celui qui la porte, pêche, car celui-ci agit de façon injuste, celui qui est frappé l'est justement. Donc c'est le cas où quelqu'un, effectivement, doit être puni, mais celui qui le punit le fait en plus avec colère, avec haine, etc., par esprit de vengeance. Bon, celui-là, donc l'excommunication est juste, si vous voulez, bien sûr, mais celui qui la porte pêche. Bon. Mais ensuite, l'excommunication peut être injuste en elle-même,
en elle-même, soit que le motif qui l'a fait porter ne soit pas valable, alors je vous renvoie à ce que nous venons de dire précédemment, soit que le motif qui l'a fait porter ne soit pas valable, soit que la sentence soit prononcée en dehors des règles et du droit, en dehors des règles du droit. Oui, que la sentence, pardon, que le motif qui l'a fait porter ne soit pas valable. Alors vous revenez un petit peu à ce que nous avons dit. Pour que l'excommunication soit justifiée dans ce cas, il faut qu'il y ait schisme. Or, il n'y a pas schisme, donc il n'y a pas motif à excommunication. Alors, bien sûr, le pape peut le faire. Il peut excommunier comme il veut et qui il veut. Mais est-ce qu'il y a le motif suffisant pour que l'excommunication produise son effet interne, son effet intérieur dans celui qui est excommunié? Ouais. Cela peut arriver. Des excommunications injustes. En tout cas, vous voyez, dans toutes ces questions-là, bon, je veux bien que les canonistes discutent sur l'interprétation du code, etc. Est-ce que ça s'applique? Est-ce que ça ne s'applique pas? Est-ce que ça sera juste ou pas juste, valide ou pas valide? Je veux bien. Mais il est un principe du droit canon, au moins je pense que dans le droit civil également, cela joue. Eh bien, c'est que quand il y a un doute, est-ce que le canon s'applique ou pas? Il y a doute. Le doute est toujours en faveur du suspect, si je peux dire. Toujours en faveur. Et pourquoi? Parce que c'est trop grave. Hein. On ne punit pas sans être certain que la punition est méritée. S'il n'y a pas cette certitude, eh bien le doute joue en faveur de l'accusé. Et là, je crois qu'il y a au moins... Bon, quant à moi, je n'ai pas de doute. Mais si quelqu'un a un doute, je crois qu'à ce moment-là, eh bien le doute doit jouer en faveur de Monseigneur. Et donc, nous devons conclure eh bien, que l'excommunication... ne sera pas portée. Elle sera peut-être portée au for externe, si le pape se prononce, mais elle n'aura pas son effet interne. Oui. Vous voyez, donc, ces objections, on est à quelle objection? Troisième, quatrième, je ne sais plus très bien. Ou encore, alors bien sûr, d'autres objections, plus nous finirons par ces deux, trois dernières rapidement. L'objection de l'abandon. Bon, bien sûr, ce que Monseigneur disait dans sa lettre aux catholiques perplexes, j'ai confiance que Dieu assurera la survie de mon œuvre si je dois mourir, etc. Bon, qui est effectivement un abandon à la Providence, mais qu'est-ce que l'abandon? Et il est vrai, je crois que ceci demeure. Si Monseigneur meurt demain, je suis convaincu que la Providence pourvoira, effectivement. C'est sûr, ça ne retire absolument pas. Mais est-ce que cet abandon à la Providence nous impose de ne rien faire? Toute la question est là. Est-ce que l'abandon à la Providence, c'est attendre que le bon Dieu fasse tout? Est-ce que c'est être suspendu en permanence au miracle? Eh bien non. Eh bien non. Voici ce que disait le père Calmel, par exemple, dans un article sur l'abandon. S'en remettre à la grâce de Dieu, ce n'est pas ne rien faire, mais c'est faire en demeurant dans l'amour tout ce qui est en notre pouvoir. L'abandon est situé au cœur de l'action. Il faut situer l'abandon à sa place véritable, non pas dans la démission et la paresse, mais au cœur de l'action et l'entreprise. L'abandon est situé au cœur de l'action. Il est adhésion dans la nuit à une volonté divine pour laquelle on aime mieux souffrir la mort que consentir au reniement. L'abandon consiste à vouloir la volonté divine, l'intention divine en ce qui touche notre propre sort, la vie de l'Église, la vie des institutions, le salut de la patrie, à vouloir cette volonté avec tant de pureté et simplicité qu'on ne mette en œuvre que des moyens purs pour la réaliser et la servir. Et l'abandon n'est pas du tout une vertu passive, c'est une vertu très active. C'est agir dans le sens de la volonté de Dieu, agir pour que le règne de Dieu arrive. Les philosophes savent cela. Eh bien, la cause première agit toujours par l'intermédiaire des causes secondes. Et le mode normal de la providence, le mode d'action de la providence, eh bien, c'est toujours par des intermédiaires. Ce sont les anges, ce sont les hommes, ce sont les ministres dans l'Église, etc. Il y a toujours des intermédiaires entre Dieu et le monde, et le cours des choses. Le miracle n'est quand même pas le mode normal pour Dieu de faire tourner le cours des choses. Il se sert de nous. Et l'abandon eh bien, c'est se situer à sa place, y accomplir avec toute son âme, toute son énergie, la volonté de Dieu. Voilà l'abandon. Alors, est-ce qu'on peut reprocher à Mgr Lefebvre ou à qui que ce soit, lorsqu'il pose un acte important, peut-être, de ne pas être abandonné? L'abandon, c'est agir. Oui, ce n'est pas ne rien faire. Bon, on nous dira encore peut-être, bon, l'argument de l'obéissance, je ne le reprends pas parce qu'on a tellement hein, expliqué deux fois que ceux qui ne l'ont pas compris, je crois que vraiment c'est incurable, si je peux dire. Hein. Parce que l'obéissance a des limites. Hein. L'obéissance inconditionnelle et sans limite, elle n'est due qu'à Dieu, c'est tout. Et à ses ministres, aussi haut soit-il, elle est toujours limitée parce que les ministres sont toujours des hommes. Le pape n'est que le vicaire, n'est que, bon, si je peux dire, et le vicaire de Jésus-Christ. Il n'est pas Jésus-Christ. Et l'infaillibilité pontificale ne s'étend pas à toute son action. Elle a un champ bien précis, bien délimité. Bon, et en dehors de ce champ, eh bien, le pape, malheureusement, peut errer. Alors, le dernier argument, eh bien, c'est celui de la confiance, bien sûr. Hein, celui de la confiance, et c'est vrai que c'est celui qui, dirait, qui porterait le plus, qui porterait le plus. Nous en avons parlé un petit peu, effectivement. Hein, nous devrions faire confiance. Oui. Seulement, est-ce que nous pouvons faire confiance? Alors, à ce sujet, eh bien, j'aimerais retrouver une lettre et vous la lire, tout simplement. Une lettre, un témoignage. Un témoignage. D'abord, je dirais, cette question de la confiance, considérons le passé. Hein. Bon, depuis 25 ans, la façon dont on nous mène, dont on nous traite, bon, ce que nous disions tout à l'heure, donc ce n'est pas la peine d'y revenir. Hein. Bon, est-ce qu'on peut faire une confiance aveugle, hein? Bon, est-ce qu'on peut se remettre par le moyen de cet accord entre les mains de Rome, comme ça, sans davantage de garantie? Bon. Et alors, en plus, eh bien, c'est un document tout à fait récent qui est daté du 2 juin 88, et que donc Monseigneur a dû recevoir peut-être même après avoir écrit au pape. C'est une lettre d'un séminariste qui a quitté le séminaire d'Écône il y a maintenant près de 2 ans, je crois. Bon, je ne sais plus très bien. Peu importe, avec un groupe de séminaristes, parce qu'à Rome, on leur avait fait entrevoir tout un tas de possibilités. On leur a fait des promesses. Venez à Rome, on va vous ouvrir un séminaire pour vous, on va s'occuper de vous, on comprend très bien. Votre attachement à la tradition, c'est très bien, mais c'est parfait. Nous aussi, nous aimons la tradition. Venez chez nous. On va faire un beau séminaire, Mater Ecclesiae, quel beau nom, plus, regardez, tout ça. Bon, et tout un groupe de séminaristes est parti là-bas. Bien, un peu bien. Enfin, voilà, ils sont partis. Et donc, cette lettre-là, qui est arrivée il y a peu de temps, voici ce qu'elle dit, moi. Je vous la lis tout simplement. Un séminariste. Je regrette. Oui. J'ai tout. Absolument tout à regretter de cette entreprise Mater Ecclesiae. D'abord, mon renvoi. Parce qu'il en a été renvoyé. D'abord, mon renvoi pour avoir trop fait de requêtes et avec insistance en faveur, par exemple, de la plus grande fréquence de la messe de Saint-Pie V, de l'habit ecclésiastique, de la correction au séminaire et des cours de l'Université Angelicum, etc. La réponse à ces requêtes, plusieurs fois réitérées, a été le silence et surtout l'alignement progressif et aujourd'hui complet de la maison et de chacun des séminaristes. Toute l'entreprise est à ce jour la risée des progressistes, évêques français en tête et des plus traditionnels. Jour après jour, nous avons vu la situation se dégrader, les séminaristes se déshabiller, se faire accepter des évêques en renonçant à tout, étant prêts à tout. Ensuite, ce fut le temps des sanctions. Tous ceux qui étaient chargés de nous aider, sommés par les autorités de ne plus s'occuper de nous. Désormais, pour celui qui ne voudrait pas avoir affaire avec les évêques de France ou d'ailleurs, il n'y a absolument plus de solution. Bagus. Et le pape n'a rien fait. Et sans doute l'an prochain, la maison Mater Ecclesiae sera fermée, ce qui d'ailleurs sera peut-être aussi bien. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de redire, soit au cardinal Ratzinger, soit à certains monseigneurs de Curie, que, hélas, on était bien obligé de constater que Mgr Lefebvre avait raison sur la majorité des choses et que je m'étais trompé. J'ai beaucoup de peine en vous écrivant ces lignes. L'idiotie d'avoir abandonné Écône malgré vos conseils. La lâcheté des autorités, et je pèse mes mots.
quand il s'agit de tradition, et leur égale lâcheté quand il s'agit d'œcuménisme avec les autres. L'abandon et le reniement de quasi tous ceux qui s'étaient pourtant engagés à ne rien lâcher, tout, oui, absolument tout, me porte à regretter. Bien, c'est ce genre de regret que Mgr Lefebvre n'a pas voulu avoir. Alors, est-ce que c'est vraiment être malveillant que de craindre que tel était le sort que l'on voulait nous faire subir après cet accord? Vous voyez, une commission avec 5 membres du Vatican. La promesse faite par Monseigneur est bien de calmer un petit peu ses protestations, ses contestations, etc., etc. Bon, quels étaient les risques que nous prenions? Alors, étant donné, justement, malgré tout, la méfiance que nous avons à l'égard de Rome, est-ce que c'était possible? Bien, Monseigneur, en conscience et devant Dieu, a jugé qu'il ne pouvait pas prendre ce risque. Alors, l'avenir nous dira s'il a eu raison ou tort. Je pense, moi, qu'il a raison, bien sûr. C'est évident, vous devinez ma conclusion. Alors, je crois que dans cette affaire, il faut faire très, très attention. D'abord, à ce que disent les journaux. Et désolé pour les journalistes qui sont dans la salle. Enfin, il faut se méfier de certains journaux, au moins, disons, voilà, soyons. Qui ne veulent pas toujours du bien. Et qui arrivent plus ou moins, petit à petit, qui arrivent à leur fin. Il y a quelques jours, Monsieur Tinck, vous connaissez peut-être, journaliste au Monde, nous faisait la confidence, un peu comme ça, eh bien que ce qu'ils espéraient, justement, et ce qui les surprenait, ce qu'ils espéraient, c'était la débandade. Ils s'imaginaient, eh bien, que ça allait être la débandade chez nous. Et puis non, apparemment, c'est le genre, ne comprenaient pas très bien, peut-être, et ça, c'est tout à fait légitime, ça. Bon, c'est évident qu'on s'interroge un peu, mais en gros, les gens... Non, on va continuer à la messe quand même, bon, on ne va pas devenir moderniste pour autant, etc. Oui, bon. En gros, donc, pas trop d'émotion, enfin d'émotion peut-être, mais pas trop de division dans nos rangs. Bon, jusqu'à la faille, alors, bien sûr, il y a une faille, il y en a toujours, ça, c'est évident. Alors là, la faille, il n'y en a plus dessus. Voilà, je suis prêt à vous parier que tous les jours, vous verrez dans les journaux l'affaire de Pormaly. Tous les jours, on va en parler et tous les jours, on va revenir là-dessus. Et puis, le fameux manifeste de fidélité et résistance, là, on va nous le ressortir tous les jours, vous voyez, pour amplifier, regardez, ça y est, c'est la bagarre, ils sont en train de se bouffer le nez, etc. Ils sont combien? Bon, ils sont un petit nombre, mais pas très nombreux. Donc, ce qu'il faut, je crois, c'est essayer de garder son calme, voyez, paisiblement, prier, bien sûr, c'est évident, c'est la première chose à faire, vous voyez. Prier, faire pénitence, eh bien, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Moi, je ne la connais pas. Dieu peut tout faire, il peut faire un miracle d'ici le 30 juin, moi. Avant, après, pendant, ça, il peut tout faire, le bon Dieu, ça. Donc que sa volonté s'accomplisse, et puis essayer justement de dédramatiser, ne pas nous laisser culpabiliser à l'extrême, nous ne sommes pas schismatiques. Nous ne serons sans doute pas excommuniés, même s'il y a un décret prononcé, non, ça ne m'empêchera pas de dormir, parce que non, c'est pas vrai, cette excommunication ne sera pas justifiée. Qu'on nous punisse, je veux bien, mais pas à ce niveau-là, pas à ce degré-là. Parce que bon, ce que nous faisons n'est pas aussi grave, aussi dramatique. Ce n'est pas une déchirure de la tunique sans couture. Bon, on commence à connaître ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Donc, essayez un petit peu de dédramatiser les choses, ne pas nous laisser culpabiliser et surtout ne pas en conclure, justement, ce genre de conclusion. Et qui malheureusement traîne dans certains milieux. Et je comprends que ça trouble un peu les esprits de dire, eh bien, que finalement, ça n'est jamais que du cédévacantisme larvé. Oui. Non. Ça, je peux vous garantir, ça, je crois. Je ne pense pas que l'avenir me donne tort. Mais que ni Mgr Lefebvre, ni l'abbé Schimberger, supérieur général de la fraternité, ni ses assistants, ni les principaux collaborateurs de la fraternité, ni moi-même, n'avons de tendance cédévacantiste. Nous aimons le pape. Oui, nous aimons le pape. Et c'est précisément parce que nous l'aimons que nous voudrions qu'il redevienne notre père, au lieu d'être notre persécuteur. Qui nous ouvre les bras?
Qu'est-ce qui... Où est le problème? Oui, mais moi, je sais pas, il y a des pères, des mères de famille, parmi vous, un enfant qui fait des bêtises, ça peut arriver. Je dis pas que ce soit le cas. Bon, admettons que ce soit le cas. Allez, bon, admettons que nous fassions des bêtises. Bon, qu'on nous gronde un bon coup, je veux bien, puis après, qu'on nous fasse un gros bisou, quoi. Enfin, bon, mais c'est ça, un père de famille, oui ou non? C'est ça, un père de famille, quoi. Un père de famille, même un enfant qui est en colère, un enfant qui est grognon, un enfant qui rouspète, bon, un père ne lui refuse pas ses bras, comme c'est pas possible, on n'a jamais vu ça, quoi. Alors là, en fait, vous savez, bon, je suis peut-être un peu... peut-être des jugements téméraires. Je ne sais pas s'ils sont complètement téméraires. Mais vous savez, hein, je suis convaincu qu'il y en a qui sont bien contents. Le démon est content, c'est évident. Hein, c'est sûr, il se frotte les mains de tout ça. Je suis convaincu qu'une, je dirais, je crois qu'on peut le dire quand même, le noyau dirigeant de l'épiscopat français est bien content. Parce que c'est à ça qu'il travaille depuis 25 ans. Depuis l'affaire de la cité catholique en France, hein, où Mgr Lefebvre a eu commis le péché mortel, hein, de protéger en Afrique, à Dakar, la cité catholique, etc. Depuis ce jour-là, il est leur ennemi numéro un. Et depuis 30 ans, à la limite, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on en arrive là, pour le mettre à la porte, pour sembler le mettre à la porte, voyez. Et je pense que les évêques français, enfin, du moins ce noyau dirigeant de l'épiscopat français, porte devant Dieu une grave responsabilité. M'avoue, je préfère être à ma place, tout pécheur que je suis, plutôt qu'à la leur. Porte devant Dieu une grave responsabilité dans toute cette affaire-là. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on en arrive là. Alors maintenant, quand ils viennent verser des larmes de crocodile, j'ai du mal à les croire. Et même, je ne les crois. Bon, enfin voilà, j'ai dit beaucoup de choses déjà, j'ai été bien bavard, ça fait 2 heures bientôt que je parle, excusez-moi. Vous avez été très patient, est-ce qu'à la limite vous auriez encore quelques questions à poser? Il est 7 heures, hein. Oui, c'est vrai qu'il commence à faire tard. Il y a eu excommunication réciproque même. Non, mais c'était la moindre des choses qui ont été levées d'ailleurs à l'issue du concile, je crois, ou à peu près. Il y a eu la levée réciproque des excommunications. Ah ben, l'action française, alors c'était une excommunication, je ne sais pas exactement les termes du... excommunication qui était ponctuelle aux abonnés à la revue ou quelque chose comme ça, ceux qui lisaient la revue, je crois. Ouais. Ils n'avaient pas droit au sacrement, ils étaient excommuniés. Ils étaient excommuniés. C'était injuste, oui. Ah, mais ça, c'est à mon sens une excommunication injuste. Donc, et reconnu comme tel 13 ans après, bien sûr. Et si je puis dire, il est quand même frappant, il est frappant de considérer, c'est logique, je dirais, jusqu'à un certain point, puisque nous sommes peut-être les seuls à croire au dogme, à l'autorité du pape, à l'Église. Il est logique que nous soyons les seuls à être excommuniés. Parce que nous sommes les seuls à y croire. Mais c'est vrai. On n'excommuniera pas les théologiens de la libération, ils s'en fichent. Ça leur fait ni chaud ni froid, ils n'y croient pas. Alors, c'est une sanction qui tomberait à vide, alors que sur nous, ça porte. Hein. Et c'est pour ça qu'ils en usent contre nous. Vous savez, c'est des... Bon, non, je ne dis pas ce que c'est. Mais... Et c'est quand même frappant que s'il y a excommunication... Bon, à part les excommunications du modernisme, les seules excommunications que nous aurons connues sont celles de l'Action française et l'éventuel futur. C'est un peu à sens unique, quand même, je trouve. Alors qu'il me semble quand même que du côté de la gauche, il y a pas mal d'évêques et de théologiens qui pourraient être quelque peu sanctionnés. Une petite suspense, au moins, ou je ne sais quoi, enfin, bon, rien. Le seul qui a été sanctionné, le dernier, c'était Boff, le père Boff, qui a été interdit de parler, ce qui ne l'a pas empêché de parler avant de se rentrer dans le silence, pendant etc., de faire des grandes déclarations, et la levée de l'interdiction a été faite 3 mois après, etc. Donc c'était rien du tout. Bon, enfin, ça, c'est, sont d'autres choses, mais enfin, voilà. Alors moi, je crois qu'il faut, garder notre calme. Éventuellement, moi, je crois que le plus important, justement, c'est ça. Je comprends bien qu'on soit troublé, inquiet, quand même, c'est vrai, c'est une situation qui est, bon, qui est pas facile, qui est pénible. Tout ça. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est garder notre calme et puis essayer, au contraire, de resserrer un peu, de nous serrer les coudes. Quand on monte à l'assaut, c'est pas le moment de se tirer dans le dos. Or, ce genre de manifeste-là, ça, c'est un coup de poignard dans le dos. Et des gens qui sont nos amis. Ah, mais ça, bon. Il est certain que ça nous met dans une situation épouvantable, dans les familles, dans nos amis, mais ça... Et le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le signe de contradiction, il est toujours là. Et chaque fois que nous voudrons, que nous choisirons d'être fidèles à Jésus-Christ, d'être fidèles à notre Seigneur, nous serons persécutés. Il ne faut pas nous aider. Alors que ce soit douloureux, c'est sûr, ça. Et la situation demain, ou enfin, dans les mois à venir, va être... difficile, c'est vrai, ça, il ne faut pas nous faire d'illusions. Mais enfin, c'est là qu'il faut serrer les coudes un peu, il faut nous serrer les coudes. Même, si vous voulez, moi, c'est une image, je veux bien, mais enfin, dans l'armée de Napoléon, il y avait des grognards. On a le droit de grogner, mais ils marchaient au moins. Bon, il faut marcher, si vous voulez, plutôt. D'autant, encore une fois, que s'il y a excommunication, elle ne peut frapper qu'un tout petit nombre de personnes. À la limite, et encore, j'avoue, je vois difficilement comment ça pourrait se faire, voyez, d'après ce que disait saint Thomas, à la limite, mais enfin, ça me paraît impossible même, on pourrait frapper la fraternité Saint-Pédis, à cause de ce lien, je dirais, interne, le lien juridique qu'il y a entre nous tous, et Monseigneur, puisque les évêques seront pris parmi nous, etc. Mais pas au-delà. Et ça m'étonnerait fort, je pense que s'il y a excommunication, il n'y aura que les personnes en question. Ce qui veut dire que ni vous ni moi, nous continuerons notre petit bonhomme de chemin comme avant. Bon, ça ne sera pas facile, je veux bien, mais vous ne serez pas plus excommunié qu'avant. Donc ça ne doit rien changer pour vous. Il ne faut surtout pas que vous imaginiez, contrairement à ce que disent certaines presses, bien sûr, que vous n'allez surtout pas imaginer que vous serez, ça y est, des exclus de l'Église, vous serez catholique comme vous l'êtes aujourd'hui, et nous le serons. Ah, oui, bon. Autre question? Non? Bon, alors ça, c'est un autre problème. Bon, c'est sûr qu'il se posera par la suite. Alors, tout dépend. Là, je ne peux pas vous répondre maintenant, parce que tout dépendra, je dirais, du style de l'excommunication, si elle est fulminée. Quelle sera l'excommunication portée? Parce que les canonistes distinguent excommunication majeure, excommunication mineure, tout un truc. Là, il faudra voir un petit peu quelle sera la nature de la sentence portée. Oui. Il est certain que la sentence peut faire que l'excommunication se transmette. Bon, quelqu'un qui reçoit les sacrements d'un évêque excommunié est excommunié. Oui. Bon, mais ça... Ah, du pape de Rome, enfin des tribunaux de Rome. Bon, le pape en personne, je ne sais pas si c'est lui qui signe les décrets d'excommunication, je ne sais pas du tout, comme on n'a pas vu ça depuis fort longtemps, je ne sais pas très bien comment ça se passe. Ah non. Alors il doit y avoir ce qu'on appelle une monition, qui semble-t-il a été faite, c'est ce que... Le cardinal Gantin, là, qui adresse à Monseigneur, donc, la monition, lui disant je ne sais quoi, attendez voir que je retrouve. Bon, je ne sais plus, ce n'est pas grave. Hein. Ah, si, voilà. Comme le 15 juin dernier, tu as déclaré ton intention de consacrer évêque 4 prêtres sans en avoir demandé mandat au souverain pontife, je t'adresse cette admonestation canonique publique. Si tu mets à exécution ce qui est mentionné ci-dessus, toi-même et les évêques que tu auras ordonnés seraient passibles de ce fait de l'excommunication late sententiae. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre patience. Bon courage. Et la monition adressée donc n'envisage que l'excommunication ipso facto. Or, reprenez ma démonstration, il n'y a pas le motif à ce qu'elle s'abatte, donc je doute, voyez, puisqu'à cause des termes là, qu'il porte une excommunication, donc nous ne serons pas excommuniés. En tout cas, il y aura au moins doute. Et dans le doute,